Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite exception car j'aimerais vous partager l'épisode 12 du Patate Club Podcast avec Lucille Gomez. Le Patate Club Podcast, c'est quoi ? C'est le podcast supplémentaire réservé exclusivement aux membres du Patate Club, aka les auditeurs qui me soutiennent financièrement sur Patreon. Le Patate Club Podcast sort deux fois par mois, comme Sens Créatif. Sauf qu'il sort la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode de Sens Créatif. Comme ça, toutes les semaines, vous avez droit à votre petite dose d'inspiration et d'interview. Bref, le Patate Club Podcast est un podcast bimensuel que j'enregistre à la cool avec mon ami Laurent Bazar et un membre surprise du Patate Club. L'idée, c'est de mettre un membre de la communauté à l'honneur pour qu'il ou elle nous parle de son parcours et de ses projets, mais aussi de débriefer du dernier épisode de Sens Créatif. Et puis, vers la fin de chaque épisode, habituellement, nous parlons des dernières actualités du podcast et du Patate Club, mais aussi des projets collaboratifs, des ateliers, ainsi que des discussions en cours sur le Discord du podcast. Le tout dans la joie et la bonne humeur, sans chichi et sans se prendre la tête. Il y a deux semaines, nous discutions avec la talentueuse Lucille Gomez, illustratrice, autrice de BD et membre de longue date du Patate Club. Vu que Lucille Gomez fait partie des 10 premiers auteurs qui ont aidé Lisa Mandel à lancer la création des éditions exemplaires, c'était tout naturel de l'inviter à venir débriefer avec nous de cet épisode. Les coulisses des éditions exemplaires, elle connaît. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'initialement, Lucille Gomez faisait partie du line-up d'origine de l'épisode enregistré en live et en public à la galerie Art Factory, l'épisode que vous avez peut-être écouté la semaine dernière. Mais pour des raisons personnelles, finalement, Lucille a dû décommander et n'a pas pu participer. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, cet épisode du Patate Club Podcast sonne comme une sorte de bonus de l'épisode live et en public chez Art Factory. Comment pourrait-il en être autrement ? Tout le merveilleux travail de Lucille Gomez gravite autour des questions de féminisme, de maternité et d'amour. Alors bien sûr, on a fini par discuter des coulisses des éditions exemplaires. Mais, durant une bonne grosse partie de cet épisode, Lucille nous a parlé de son parcours en tant que femme dans la BD, mais aussi du sexisme, de ce que le mot féminisme représente pour elle, de son éveil en tant que femme, de ses projets de BD, ainsi que de sa parentalité. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé cette conversation tellement intéressante que je ne pouvais la garder juste pour les membres du Patate Club. Alors, voilà. Voilà à quoi ressemble un épisode classique du Patate Club Podcast. Et je ne vous ai rien caché, à la fin de cet épisode, vous découvrirez les coulisses de la communauté, les divers projets qui nous animent, les rendez-vous à venir, etc., etc. Alors si ça vous botte de rejoindre le Patate Club afin d'accéder aux autres épisodes du Patate Club Podcast, mais aussi aux rencontres, aux ateliers en ligne, au collectif Patate et plus largement à la communauté d'entraide sur le Discord Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com/senscreativepodcast pour soutenir financièrement le podcast. Les participations débutent à 2€ par épisode et votre contribution m'aide grandement à continuer à développer ce podcast. Sur ce, je vous laisse découvrir l'épisode 12 du Patate Club Podcast en compagnie de Lucille Gomez. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute.
Et c'est parti, mesdames et messieurs, chers amis du Patate Club. Aujourd'hui est un grand jour parce que nous avons Lucille Gomez et ça fait tellement longtemps qu'on essaie de se choper. Je suis très content que tu sois là, Lucille.
C'est le jour J.
C'est le jour J.
Je suis content d'être là aussi.
Indeed. Hello, hello. Je sais qu'on s'est déjà parlé en off avant, mais Lucille, Laurent, comment ça va ?
Lucille ?
Et toi,
moi aussi.
Ouais.
Très bien.
Ouais, c'est un peu... C'est un
tout
peu
va bien sous le soleil de Paris.
Ouais. Ouais, ici c'est pas la fête du slip là. Il fait un peu grisouille. À Biarritz, il y a plus de soleil là.
Tout va bien sous la pluie de Biarritz. Il faut que je dise aux gens qu'il pleut au Pays Basque parce qu'ils sont tout le temps quand ils arrivent. Ah, mais il pleut. Pourtant c'est le sud, oui, mais il pleut énormément au Pays Basque.
Donc pas de surf aujourd'hui.
Damned.
Pas de surf aujourd'hui. Enfin, si peut-être il y a du surf aujourd'hui, mais pas pour moi.
Et pas pour toi.
On peut surfer sous la pluie, mais c'est pas l'idéal.
C'est quoi vos petites actus du moment à tous les deux ? La tête dans le guidon, comme on se le disait en off ?
Ouais.
Ah bah je confirme, ouais. C'est vraiment le mois de septembre. Il n'y a pas à se plaindre, hein, mais c'est... oui, il faut tout remettre en branle et c'est vraiment du gros timing, quoi. Gros timing. Mais c'est cool, moi je suis content.
C'est sportif aussi avec les enfants, machin, tout ça.
Ah bah oui, retour des activités.
Ouais. Aujourd'hui, on est mercredi d'ailleurs. Ils sont où vos enfants aujourd'hui ?
Alors, mes enfants, là, ils sont en train de pique-niquer avec des copains.
Ah yes.
Voilà.
Donc, sous la pluie.
Non, il ne pleut pas encore beaucoup. Ils ont annoncé de la pluie pour 13h, donc ça devrait le faire. Voilà, passer entre les gouttes. C'est là qu'ils sont. Et puis après, ils vont rendre visite à leur ancienne nounou parce que c'était la première rentrée de mon petit. Et sa nounou lui manque. Donc, ils
m'ont... Oh. Ouais. Ah ouais, donc T'as un enfant comme moi de 3 ans et des brouettes, du coup.
Ouais, il a eu 3 ans au mois de juillet.
Ah ouais, et moi au mois de juin. Wow, franchement, ça fait un petit pincement au cœur. Moi, c'est la première fois qu'il va en maternelle. C'est... Ça fait quelque chose quand même.
Voilà. Ouais, ça fait quelque chose. C'est incroyable. Je ne pensais pas que ça ferait ça. Mais ça me l'avait fait pour le premier déjà. Maintenant qu'il a 7 ans, donc ça ne le fait plus. Mais du coup, je me disais, c'est bon, je suis aguerrie maintenant, ça ne va pas me le refaire. Mais si, ça m'a refait. Ça m'a refait quelque chose quand même. Ouais. Ça m'a refait un pincement au cœur.
Et toi, Laurent, c'est foot aujourd'hui, c'est ça, pour Joachim ?
Ah oui, ça me fait un pincement au cœur parce que c'est son deuxième entraînement de foot. Non, mais je me revois à son âge, donc c'est un peu du kiff de Daron, ça, on va dire.
Ouais. Et puis on s'est vu il y a quelques jours avec Joachim, il pensait déjà qu'il allait passer à la télévision le premier.
Ah oui, mais vraiment, j'ai dû l'expliquer, là, non. Non, ils vont pas venir filmer à Saint-Mandé le match Saint-Mandé-Nogent. Ouais. Qui n'a pas joué d'ailleurs, on est allé samedi, il y avait personne, donc c'était super. Mais voilà.
Ouais. Mais moi, le mien, il est au périscolaire aujourd'hui. Et il adore le périscolaire. Donc, ça va. Je sens que ça va être. Il y aura un petit côté discussion de parents aujourd'hui. Là, on est tous bien occupés avec ces trucs-là, c'est un peu le sujet et tout. All right. Bon, Lucille. Est-ce que tu pourrais, pour les chères patates qui ne te connaissent pas encore, te présenter, nous dire un peu qui tu es ?
Ouais, donc je m'appelle Lucille Gomez, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, je fais de la bande dessinée, un peu d'illustration mais surtout la bande dessinée, depuis maintenant, mon premier album c'était en 2005. Voilà, donc depuis longtemps. Pourquoi je suis invitée là aujourd'hui? Je pense que c'est parce que l'épisode de Lisa Mondel parle des éditions exemplaires, dont je fais partie. Voilà, donc j'étais parmi les gens qui ont lancé les éditions exemplaires.
Yeah. Tu fais partie des 10 auteurs autrices qui sont à l'origine d'exemplaires.
D'accord.
Ouais. J'ai participé. En fait, ce qu'on a fait, c'est que c'est le projet de Lisa, hein, vraiment d'Antoine et Lisa. Au départ, mais Lisa m'a contactée pour savoir si je voulais bien faire partie des premiers auteurs qui allaient être édités, qui s'engageaient à faire un livre en fait chez Exemplaire, et donc de participer à la campagne de financement participatif pour récolter des fonds pour pouvoir monter la maison d'édition et surtout le site internet, parce que c'est un gros boulot de pouvoir faire un site sur lequel on puisse payer, acheter des livres, que tout ça fonctionne, parce que l'idée c'est pas que ça bug. Donc, voilà. Et donc je me suis engagée à faire un livre et mes premières ventes, c'est comme les gens achetaient des coupons pour acheter mon livre, mais ces coupons en fait ont servi à financer le site internet.
C'est trop stylé.
Ouais, je trouvais ça, l'idée géniale.
Ça fait longtemps que vous connaissez avec Lisa ? Parce que ça fait 15 ans que tu fais de la BD, ça fait 15 ans que vous vous parlez ou...
Non, en fait, Lisa, tu sais, il y a eu la génération des blogs BD, à l'époque où c'était un truc, les blogs.
Ouais.
Je connaissais son... Moi, j'avais monté un webzine avec des copines qui s'appelait Dessin.
Ouais, je me souviens.
Et Lisa aimait bien, donc on avait eu des contacts à ce moment-là. Moi, je connaissais son blog, et puis après, on ne se connaissait pas personnellement, hein, mais bon, évidemment, je suis son travail. Puis après, il y a eu différentes petites choses. Elle a fait partie d'un comité au CNL, le Centre National du Livre, et j'ai obtenu une bourse du CNL de l'année où elle était dans le jury, en fait.
Donc, ouais.
Je pense qu'elle avait déjà vu mon travail à ce moment-là.
De
et
fait.
Puis, il y a eu l'univers qui nous a fait prendre un train entre Paris et, je ne sais plus, Bordeaux ou Paris et Toulouse, je ne sais plus, enfin, un assez long trajet. J'avais là ma place assise à côté d'elle. Donc, je l'ai vu arriver, j'ai fait.
Par hasard.
Lisa Mondel.
Incroyable.
C'était lié à un festival, à un événement ou juste
non,
comme ça,
par hasard? Non, pas du tout. J'allais à une
cremation. Sacré Universe.
J'étais dans un état bizarre.
Ah, ça, c'est ouf.
J'étais dans un état bizarre et elle était en plein dans les dessins pour la jungle de Calais, là. Donc, ça a été génial de discuter avec elle tout le trajet.
Ah, mais oui.
Et elle t'avait déjà rencontré par le passé? Elle savait qui tu étais quand elle t'a vu ou...
Ouais. On s'était pas rencontrés, on s'était croisés en festival. Donc, tu vois, en gros, moi, je savais très bien son travail et tout ça. Je voyais son visage. Elle connaissait mon travail, je te dis, pour avoir fait partie du jury au CNL et puis pour plein de trucs.
Oh, c'est trop drôle.
Mais je crois qu'elle avait jamais vu ma tête, en fait, tu vois. Voilà. Et donc, plus j'étais boursouflée parce que j'avais passé le week-end à pleurer pour enterrer mon oncle. Donc, c'était bizarre. Non, mais voilà. Et puis, ouais, Lisa, quoi. Donc, un trajet où on n'a fait que parler. Tu l'as vu pendant ton épisode. Ouais,
incroyable.
Elle a un cerveau qui fuse, quoi, et c'est super agréable. Elle a plein de trucs à dire, c'est super.
Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est hyper fluide. Mais donc, du coup, tu es dans ce train et tu te rends compte que c'est elle et tu te dis genre. Salut, c'est Lucille.
Et genre, je fais Lisa Mandel. Et donc là, elle a un moment de surprise. Et donc, on a discuté pendant tout le trajet. Voilà, il y a eu ce moment-là. Et puis, depuis, je ne l'avais pas revue, non. Et par contre, on fait partie toutes les deux du collectif contre le sexisme en bande dessinée.
Mmh. Ouais, la charte.
Donc, c'est pareil, on voit les commentaires de l'une de l'autre dans le groupe Facebook auquel on fait partie, enfin, tu vois, il y a des petits échanges, mais c'était pas un lien non plus très. Voilà, mais le projet a fait que.
Ouais, c'est trop bien. Voilà. J'avais fait mes devoirs pour le live chez Arts Factory où initialement tu devais participer, Lucille, et j'avais été voir, notamment grâce à toi aussi, j'ai été voir tout ça, la charte, le collectif contre le sexisme, etc. Et finalement, on n'a pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion de sortir quelques citations lors de l'enregistrement, mais j'avais été fouillé en amont et j'encourage tout le monde à aller voir. Je pense que c'est bdegalité.net. Ouais. C'est ouf ce collectif. Donc, t'as été à Angoulême et t'as participé à l'événement là avec est-ce que c'est dessiné par un homme ou par une femme? J'ai oublié.
Non,
très d'égalité.
J'ai pas participé. Aussi. C'était l'année où mon premier enfant est né. Le 2 janvier, Angoulême, c'est fin janvier, donc je suis pas allée à Angoulême cette année-là. Mais puis il y a eu des traces aussi sur Internet. Il y a eu des vidéos de l'interview que Lisa a faite de Francky Ballonnet et Bastien Vivès.
Oui, qu'est-ce que ça fait d'être une femme, d'être un homme dans la BD, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, le truc inversé. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est une nana et qu'on fait de la BD, enfin, en tout cas, quand on était une nana en 2005 et qu'on faisait de la BD, la question qu'on nous posait, c'est alors, qu'est-ce que ça fait d'être une femme et d'être
une BD? C'est fou.
Et en fait, moi, j'ai réalisé que j'étais une femme avec mon premier album de BD. Avant, j'avais pas réalisé que j'étais une femme, quoi. Tu vois, il y avait un truc vraiment.
T'as appris quelque chose.
Ah, oui, tiens, c'est vrai, je suis une femme et je fais de la BD, donc c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas si c'est bizarre, ben voilà. Et c'est pas forcément une mauvaise question en soi, hein. La preuve, on en parle encore en 2020.
Non, bien sûr, mais c'est étonnant qu'on la, enfin, oui, c'est non, ça, c'est étonnant qu'on la pose encore, en fait.
Ouais, en fait, c'est pas du tout une mauvaise question, je pense. Le seul truc, c'est que c'est la seule question et que le temps qu'on passe à parler de ça, on parle pas vraiment de ton travail, c'est ça qui est un peu.
Bah oui. Tu sais d'ailleurs que j'ai ouvert le live du coup avec cette question, j'ai dit mais ça fait quoi d'être une femme dans l'illustration du coup, je voulais un petit peu adapter le truc et c'est vrai qu'au final les réactions c'était moins, elles étaient presque surprises par la question comme si dans le milieu de l'illustration c'était peut-être un petit peu moins sujet que dans la BD. Et après, évidemment, on a déroulé pendant une heure et en fait, on s'est rendu compte.
C'est logique.
Ah, j'étais pas au live, j'ai pas entendu, je l'ai pas. Il est pas disponible encore ce podcast.
Non, il sort dans 2 semaines. Et
voilà, normalement. Je sais pas, mais je peux te répondre sur le fait que c'est très différent de faire de la BD et de faire de l'illustration. Et quand
c'est pas le même monde. Hein.
En tout cas. Maintenant,
c'est plus sexiste la BD du coup que l'illustration.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que.
Ah oui.
Maintenant, ça l'est peut-être. C'est peut-être moins le cas. Hein. J'ai l'impression.
Ah, parce qu'il y a plus de projets.
J'espère que, voilà, que les choses tendent à plus de parité, etc. Mm-hmm. Mais en 2005, quand j'ai commencé à faire des festivals de BD, que j'avais mon premier album et tout ça, j'étais la seule nana. J'étais la seule nana. Enfin, tu vois, je veux dire, il y avait parmi les lecteurs. Tu vois, c'était les festivals, c'était beaucoup.
C'était la fête auto-testéro.
C'était la BD franco-belge. Les gens qui allaient dans les festivals, c'était les amateurs de BD franco-belge.
Oui,
les premières.
Des mecs avec des gros bifs.
J'avais demandé faire pour l'écho des savanes. J'avais jamais acheté l'écho des savanes. On m'a dit. C'est Albin Michel Bézet qui est venu me chercher, qui m'a dit on aimerait féminiser notre humour. J'ai acheté l'écho des savanes parce que, en effet, je ne connaissais pas, hein, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et tout. C'était vraiment des blagues à la papa. Enfin,
tu vois, ça.
C'était vraiment un truc. J'étais waouh, il y a du boulot pour féminiser l'humour, en effet, tu vois. C'était.
Mais c'est bien de partir de là, de l'écho des savanes, tu vois. Par exemple, c'est vraiment le créneau, tu vois, le créneau qu'il faut changer, qu'il faut modifier à l'époque. C'est là-dedans que ça se passe, quoi. Donc.
Ouais, mais après changer, je sais pas, mais proposer d'autres choses. Alors
ouais,
que l'illustration, tu vois, bah les magazines féminins sont pleins d'illustrations. Les magazines féminins, l'horoscope, il y a des illustrations, les illustrations de mode, enfin tu vois. Et puis la jeunesse, quoi, tu vois, c'est là, c'est pour les femmes, ça, c'est les enfants, tu vois. Ces enfants.
Ouais.
Puis, c'est vrai, c'est vrai que
j'exagère, je caricature à mort, mais dans la tête des gens malgré tout. Et en festival, ça se vérifiait. J'étais la seule fille. Mon premier éditeur, en plus, c'était un indépendant et tout. J'étais une fille, j'avais 25 ans. Mon premier album, c'était un truc sur les nichons. Enfin, ça s'appelait les seins, tu vois. Laisse tomber. C'était soit on faisait que des blagues qu'aujourd'hui, je pense, on n'oserait plus faire.
Ah ouais?
Et soit, des blagues hyper lourdes. Enfin, c'était horrible, vraiment. Et puis je me sentais hyper isolée, tu vois, avec ça. Ça faisait que soit je réagissais mal et j'avais l'air d'une pimbèche, soit je réagissais bien et j'étais une gourde, quoi. Tu vois, c'était très difficile de jongler avec ça, de savoir quand on te fait une blague hyper lourde et que tout le monde rigole, si tu rigoles pas, c'est que t'as pas d'humour, enfin, tu vois. Et en fait, si c'est pas drôle, si tu trouves pas ça drôle, enfin. Et après, si tu ris, que tu rentres dans le truc, c'est très malaisant, en fait.
Ouais, j'imagine. Mais
maintenant, c'est plus la même ambiance, c'est plus exactement pareil, pas partout, ça évolue, quoi, disons.
Ouais. Et d'ailleurs, tu contribues en tant qu'autrice dans ton travail à justement traiter de tous ces sujets, que ce soit le féminisme, que ce soit la maternité, que ce soit la BD, etc. Tu peux un petit peu nous raconter les diverses choses, les divers projets que tu as eu à cœur ces diverses années pour les personnes qui ne connaissent pas.
Ouais, avec plaisir. En fait, je fais à ma ligne, mais tout ce que je suis en train de dire là, en faisant l'intéressante, c'est ça a mis longtemps à être compris par mon petit cerveau. Tu vois, c'est-à-dire que quand moi, on me faisait des blagues sexistes et lourdes, c'était tellement l'ambiance générale que je me disais pas c'est sexiste et lourd. Je me disais pourquoi je me sens si mal à l'aise quand ils me font des blagues comme ça? Est-ce que je suis coincée?
Ouais, c'est ça.
parce que l'ambiance générale était à ça. Enfin, même Fluide Glacial, la plupart des... Mais même les mêmes, regardez Spirou, le petit Spirou, enfin, c'est hyper sexiste. Ah, mais
super sexiste.
Ouais, c'est
et je dois vous dire un truc, là, j'ai halluciné l'autre jour, parce que ça fait longtemps que je lis plus Lucky Luke, et comme j'ai participé au 75e anniversaire de Lucky Luke récemment, je suis tombé, en fait, en librairie sur les BD de Mathieu Bonhomme, qui fait, en fait, une espèce de... Dommage, enfin c'est pas une espèce, c'est même un hommage à l'univers de Lucky Luke. Et sur la couverture de Lucky Luke, c'est Lucky Luke avec trois femmes qui sont serviles autour de lui, qui sont à ses pieds. J'ai halluciné de voir une couverture pareille. Je m'attendais pas du tout à ça. Et je me dis, mais en fait on en est encore là, quoi.
Oui, c'est sûr. Après, est-ce que c'est un problème qu'il y ait des hommes qui fassent ce fantasme-là, tu vois?
Non, mais c'est le male gaze, quoi, tu vois, c'est quand même le truc qui est un peu facile et qui est,
Ça. Et c'est qu'en fait, il faudrait proposer d'autres choses, il faut abreuver d'autres choses,
J'ai pas lu la BD, hein, mais voilà, la couverture m'avait un petit peu effaré.
Mais
elle est belle, la couve.
Ça m'étonne pas, après, ça m'étonne pas, je l'ai pas vu non plus, donc voilà, pour dire que les sujets féminins, je n'ai osé m'en emparer que très tard, au moment où j'ai compris que c'était pas la honte, en fait, d'être une femme et d'avoir envie de parler des sujets qui me concernaient. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y avait un truc avant qui était de l'ordre de, non, c'est des sujets de gonzesse, ça intéresse personne. Tu vois? Il y avait un truc vraiment comme ça qui était un peu inconscient dans ma tête, mais qui était là quand même, tu vois. Donc, de me dire, on venait me chercher en me disant, vous êtes une femme, vous faites de la BD, vous faites de la BD féminine, et moi, ça me cassait les pieds, en fait. J'avais pas envie d'être.
Ouais, tu faisais de la BD,
j'avais envie
quoi.
De faire de la BD, quoi, tu vois. Et exactement. Et à ce moment-là, il y avait un truc très condescendant sur la BD féminine qui était forcément girly, tu vois.
Ouais, oui.
Et moi, je me reconnaissais pas du tout dans le. Je me reconnaissais pas du tout dans le girly, c'est-à-dire que il y a pas même si on veut enlever le côté péjoratif du mot girly, parce que c'est ok, tu vois, d'être femme de mode, c'est tout à fait ok, il y a aucun problème. Le truc, c'est que moi, ça m'intéresse pas.
Mais tu peux réduire chaque femme autrice à
j'ai vachement de mal, par exemple, à habiller mes personnages. Donc à ce moment-là, les nanas qui cartonnaient faisaient aussi de l'illustration de pub, et puis en plus, j'étais très j'avais besoin de sens dans tout ce que je faisais, donc moi c'était hors de question. Même les fois où on m'a proposé, tu vois, de faire des trucs pour, je me souviens quand on m'a proposé des trucs pour Sveltes, tu vois, et moi c'était hors de question que je fasse des illustrations pour une marque qui vendait des produits à l'aspartame pour le dictac de la minceur, enfin tu vois, j'avais un truc comme ça. Donc,
ouais, bien sûr. Ouais.
J'étais pas du tout dans ce réseau illustration de pub, et celle qui cartonnait à l'époque, c'était Margot Motin, c'était Pénélope, c'était, tu vois. Que sont des nanas que j'aime beaucoup, tu vois, mais qui, elles, savaient habiller leur personnage, savaient mettre le hit bag tu vois, et tout. Et moi, c'était pas du tout mon délire. Et donc, on me disait, ouais, mais il faudrait que tu lises des magazines féminins. Et c'était pas du tout mon ambiance. Mais j'étais pas non plus dans une BD un peu trash, un peu, parce qu'il y avait des filles qui faisaient de la BD. Mais tu vois, à ce moment-là, il fallait peut-être que je devienne, j'avais l'impression, en tout cas, parce que c'était juste, moi, la façon dont je me positionnais, mais enfin, j'oscillais entre ce truc. Ok, on voit que ce que je fais, c'est féminin, parce que les sujets qui m'attirent, c'est des sujets qui sont proches de ma vie, et bon, ben, il se trouve que je suis une femme. Mais d'un autre côté, ça, je me reconnais pas dans ce qu'on me demande, parce que vraiment, on m'a demandé expressément de faire des BD sur les soldes, enfin, tu vois, sur des trucs comme ça.
Ah ouais?
Ouais. Et d'un autre côté, donc, pour me détacher de ça, il aurait fallu que je sois caricaturalement d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que après, j'avais des copines qui faisaient de la BD, de fanzina, des trucs plus punk et tout, tu vois. Mais je me reconnaissais pas non plus, tu vois, dans un style vachement tranché, noir et blanc, enfin. Et donc, j'étais un peu perdue, quoi. Il y a un moment où j'avais l'impression de pas pouvoir être tranquillement à qui j'étais, quoi. Parce que, on m'a demandé expressément, c'est-à-dire qu'en fait, on est venu me chercher pour faire des BD dans l'écho des savanes. Et là, on m'a... Enfin, c'était trop bien, tu vois. Les gens trouvaient ça trop bien, ce que j'avais fait. J'étais hyper libre, je pouvais faire ce que je voulais, enfin, vraiment. Sauf que l'écho des savanes s'est fait... Donc, Albert Michel BD s'est fait racheter à l'époque par Glénat. Et tous les gens avec qui j'avais bossé ont changé. Et donc, ils avaient racheté un catalogue, tu vois, où il y avait Vuillemin, etc. Glénat avait racheté un catalogue, mais clairement, ils n'avaient pas racheté le catalogue pour moi.
Ouais.
Donc, si c'est vrai, j'étais pas trop au raccord. Enfin, ils s'en foutaient un peu, quoi, tu vois, de ce que je faisais. Et surtout, ils avaient une idée. Bon, ben, la fille, on va lui faire faire des trucs de fille. Et moi, je suis arrivée, j'avais mon album presque terminé, en fait, parce qu'il y avait eu des pages faites déjà pour le magazine et tout. Et donc là, ils m'ont demandé, ça a été vraiment, j'ai eu une réunion avec l'éditeur qui m'a demandé d'enlever toutes les histoires qui n'avaient pas trait directement à la féminité. Donc j'avais des histoires qui parlaient juste,
de la vie. Hein.
De la vie, quoi, d'avoir 20 ans, de ce point, voilà. Et d'avoir la vingtaine, disons. Et de rajouter des histoires sur le coiffeur. Et j'avais une liste comme ça, d'histoires obligatoires à faire. Et en fait, si tu veux, c'est pas l'épilation et tout ça. C'est pas, et en plus, le fait qu'il n'y a rien à dire sur ces sujets. C'est juste que ce soit imposé de façon si caricaturale par un homme et par l'idée qui se fait de ce qu'attend le lectorat de femme. C'était, pour moi, hyper... Enfin, j'étais hyper mal, quoi, tu vois.
Ah, mais c'était la norme et ça l'est malheureusement encore dans plein... dans plein de publications, quoi. C'est le problème, il est là aussi, quoi. C'est penser à la place des autres, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui a permis, je trouve, Internet pour les femmes, mais pour sans doute d'autres personnes. C'est qu'il y a pas forcément l'obstacle, on va dire, ou le filtre de l'éditeur entre ce que tu proposes et le lecteur, tu vois. Donc entre l'auteur et le lecteur. Ça fait que tout d'un coup, je pense que les éditeurs ont réalisé que ce qu'ils imaginaient n'était pas la réalité, c'est-à-dire que il y avait un public pour certaines formes de BD que eux n'auraient pas pris le risque d'éditer, tu vois.
Donc il a fallu contourner les biais sexistes des éditeurs en utilisant les réseaux, en s'exposant immédiatement pour qu'ils se rendent compte.
Moi je crois, je crois qu'il y a eu un truc comme ça et qui a fait que ils n'étaient pas de mauvaise foi quand ils se disaient on ne va pas trouver, parce que moi donc ce livre, ce fameux livre là. On me disait, si on ne trie pas tes histoires, ce n'est pas un produit bien défini, on ne sait pas où le mettre en rayon, en fait. Donc, il va jamais trouver son public.
Oui, c'était une vraie problématique, c'est sûr.
Ouais,
c'est sûr.
Ça. Donc, on me disait, puis on payait moins aussi que mon pote, par exemple, Thibaut Soultier, qui avait signé chez le même éditeur et tout. Je disais, mais attendez, moi, j'ai déjà fait des livres, et lui, non. Et vous lui proposez plus d'argent qu'à moi. Ils m'ont dit, un peu gêné, ça, c'était déjà chez Albin Michel BD, c'était le cas. Ouais, mais toi, on sait pas si les BD de Thibaut, on sait, on connaît ce public-là, tu vois. Public un peu trash, de l'humour, parce qu'il était beaucoup plus trash, Thibaut, à l'époque, Soultier, donc je parle de Soultier. Donc, on connaît ce genre de public, on sait à peu près sur un premier livre, un auteur nouveau, on sait à peu près combien on peut espérer en vendre, alors que toi, à l'époque, ils savaient pas si les femmes liraient. Tu vois, et il était entendu déjà que ça ne plairait qu'aux femmes, mais en plus, il ne savait pas si les femmes liraient de la, enfin, tu vois, de la BD, ou enfin, ils n'en avaient aucune idée. Donc,
ouais, parce que pour eux, c'était comme une sorte de chantier à construire, donc c'est toujours compliqué en marketing. Tu dis, bah, t'as tout un truc à mettre en place. C'est quand même plus facile d'aller vers un public dont tu connais déjà les rouages et les limites. Et là, tu peux l'alimenter. C'est vrai que quand il faut, comme ça, inventer un nouveau public qui en fait existe, mais dont ils savent pas du tout comment les toucher, ben en fait, ils étaient simplement paumés, puis ils voyaient pas la portée économique en fait du
c'est
truc.
Ça.
Mais après, ouais. C'est aux libraires aussi. Je pense qu'ils font un travail formidable de mettre en avant aussi les auteurs et les livres qui, quand ils les reçoivent, qu'ils aiment bien et ils mettent en vitrine. Ça joue aussi énormément parce que ce ouais. lien-là entre les éditeurs et les libraires.
Oui, en fait, tout joue. Mais ce qui joue aussi, c'est l'état d'esprit de l'autrice elle-même. C'est-à-dire moi, là, en l'occurrence, c'est que ben, si tu veux, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a quand même depuis MeToo, puis les réseaux, et puis etc., une espèce de le mot sororité qui est apparu qu'on n'entendait pas à l'époque. Tu vois, à l'époque. Dans les quelques meufs qu'il y avait qui faisaient de la BD, il y avait beaucoup aussi de « Ah, celle-là, elle fait du girly ». Ça venait des femmes aussi, tu vois.
C'était
un truc aussi très péjoratif qui venait aussi des femmes. Enfin, donc, c'est un peu compliqué. Moi, du coup, bah, je me disais pas « C'est parce qu'ils se rendent pas compte qu'il y a plein de femmes qui sont intéressées par les sujets que je peux aborder, etc. » Je me disais « C'est parce que c'est pas intéressant, tu vois. »
J'avais pas l'assurance
et la confiance en moi de me dire « Mais non, en fait, c'est tu poses déjà plein de questions sur ton dessin. » Tu te demandes est-ce que je suis légitime à faire une BD. Moi, j'ai pas fait une école de BD, j'ai pas fait, tu vois, je suis arrivée là, bim bam boum, j'ai eu l'impression d'avoir du bol tout le temps, tu vois. Et à la limite, je me disais, ah, mais j'ai de la chance qu'on s'intéresse à moi parce qu'en ce moment, c'est la mode d'être une femme. Je me disais des trucs comme ça, tu vois.
Oui, non, mais c'est normal de te le dire. C'est normal de te le dire.
Je me rends compte que c'était une connerie, tu vois.
Bah oui.
À l'époque, voilà, donc souvent, j'entretenais une espèce d'ambiguïté avec le métier d'auteur BD qui faisait que je ne me lançais pas complètement à être autrice de BD parce que je ne me disais pas... tu vois, j'avais besoin de la validation d'un argument d'autorité qui, pour moi, l'éditeur en était un. Donc, si l'éditeur me disait « on ne va pas te trouver public », je disais « ok ». Tu vois, je ne me disais pas « si, il y a un public, c'est trop intéressant, il y a plein de trucs à dire comme j'en ai été dit ». Je ne me disais pas ça du tout. J'avais pas du tout, tu vois, cette conscience là, donc.
Et à quel moment il y a eu tu expliques que c'est une prise de conscience progressive, et est-ce qu'il y a eu un tipping point, un point de bascule comme ça en toi où tu t'es approprié le truc et il y a une sorte de magie qui s'est opérée où t'as vraiment pris ta place, où tu t'es senti bien?
Mais carrément, c'est parce qu'en fait, en vérité, je flirtais déjà avec tout ça avant, tu vois. Donc mon premier fanzine, c'était un fanzine qui s'appelait Dessin. Des filles qui en ont, c'était un webzine à cycle menstruel, enfin tu vois, il y avait un côté
déjà
féministe, tu vois, mais je l'avais pas formulé clairement dans ma tête, en fait. C'était, tu vois, en fait, le seul truc, c'est que j'avais monté ce webzine en me disant, ouais, je dessine plus, je suis graphiste maintenant, j'étais avec une copine, on buvait une bière, on disait, mais comment ça se fait, on dessine plus, c'est dommage, tout ça, on devrait trouver un prétexte pour dessiner, donc on avait essayé de faire un fanzine, mais faire un truc sur papier, c'était hyper fastidieux, puis c'était les débuts d'Internet, donc on a monté ce webzine, et on avait remarqué en buvant cette bière que, tu sais, au fur et à mesure, tu es là, tu te dis, mais en fait, c'est fou, parce qu'on connaît que des filles qui dessinent autour de nous, il y a énormément de filles dans les écoles d'art, dans notre classe, c'était beaucoup de filles, on avait plein de copines qui dessinaient super bien et tout. Et pourtant, les BD qu'on aimait et tout, et qu'on lisait, à part Brett et Cher, c'était essentiellement des mecs, en fait. On se dit, putain, c'est incroyable, comment ça se fait, et tout ça. Et c'est pour ça qu'on avait monté ce webzine, déjà. Donc, tu vois, il y avait ce thème-là. Après, je m'auto-sabotais. Enfin, il n'y a pas que le contexte. Il y a moi aussi, tu vois, la confiance que j'avais en moi, l'entourage, enfin, voilà. Donc, qui faisait que je faisais des allers-retours vers la BD. À chaque fois, je me disais, oh, j'arrête, je suis intéressée par plein d'autres trucs, je faisais d'autres trucs, je faisais pas. Puis, hop, finalement, je refaisais un album, puis, hop, je rencontrais quelqu'un au festival, je re-signe. Enfin, tu vois, il y a un côté comme ça. Et puis, voilà, ça se faisait comme ça, et c'était très bien, et je faisais de la BD pour des magazines, de par-ci, par-là, puis sans ambition énorme non plus en termes. Et puis, quand je suis devenue maman, en fait, tout d'un coup, j'ai compris vraiment l'inégalité homme-femme.
Tu t'es pris en pleine tranche.
Ouais, mais vraiment, quoi. Ça a été une espèce de d'épiphanie, là. Je sais pas comment dire un truc.
Bah, c'est bien, c'est le terme.
Et en plus, c'est tombé au moment où le collectif contre le sexisme s'est monté. Donc tout d'un coup, j'ai vu émerger plein de témoignages de consoeurs, tu vois, qui... Et je me disais, mais je suis bon, c'est pas moi qui manque d'humour, c'est vraiment que c'est désagréable pour de vrai, tu vois, d'avoir tous ces témoignages-là, d'avoir aussi des autrices parfois plus âgées, que moi, j'avais pas vues parce qu'elles étaient invisibles, en fait, très peu visibles, parce qu'il y a toujours... Il y avait des autrices femmes, en fait, avant, même dans les années 70, tu vois, sauf qu'on les connaît moins, en fait, c'est tout. Et donc, tout d'un coup, j'ai réalisé toute l'ampleur du délire, d'auto-sabotage aussi du fait que j'étais une nana, que tout le temps que j'avais passé à douter sur la légitimité des sujets que je voulais aborder, en fait, si j'avais été un homme, je ne me laisserais pas poser, tu vois. Je pense que j'aurais poncé beaucoup plus, parce que, voilà. Et donc, bref, en devenant maman, j'ai compris que quoi qu'on fasse, j'étais une femme et que j'en subissais du coup certaines inégalités et que ça voulait pas dire que ce que j'avais à dire était inintéressant, au contraire, quoi. C'est pas parce que... Voilà, c'était vraiment en devenant maman, quoi. Et puis, il y a eu cet accouchement que j'ai eu pour mon premier bébé où j'ai été super bien accompagnée. J'ai une sage-femme géniale qui m'a transmis des choses toutes simples pour accoucher bien. Et puis, pas longtemps après, la maternité dans laquelle j'ai accouché a été menacée de fermeture. Et là, j'ai découvert les témoignages de copines, de femmes autour de moi qui avaient les témoignages de leurs accouchements. Et c'était horrible. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai eu la chance d'avoir comme info qui m'ont été transmises par ma sage-femme, elles l'ont pas eu. Et elles, du coup, elles ont vécu des accouchements traumatiques sans même oser dire qu'elles ont été traumatisées parce que le bébé va bien, tout va bien, rien à signaler, tu vois, d'un point de vue médical. Mais en vérité, elles sont traumatisées.
Oui, on parle pas du ressenti de la maman, quoi.
Et ça aussi, ça a été, là, pour le coup, un sujet ultra féminin dont j'aurais jamais pensé m'emparer, parce que pour moi, même dans ma tête, parler des gamins, tu vois, encore un truc de gonzesse qui est pas intéressant, tu vois, à l'époque, c'est-à-dire le chemin que j'ai fait. Ben là, je me suis dit, non, en fait, c'est hyper urgent d'en parler, quoi. En vérité, quoi, il en va de la santé physique et mentale des mères, des bébés, des familles. Enfin, tu vois, c'est un truc... tout d'un coup, ça m'a paru dingue. Donc voilà, ce sujet a permis aussi de... Et puis après, je me disais, c'est fou parce que j'avais un regard hyper misogyne, en fait, avant. Tu vois, quand j'étais gamine, moi, je voulais être Tom Sawyer. Je voulais pas être Candy et tous les trucs à neuneux et tout. Les rubans, les machins, c'était pas mon truc. Mais tu vois, et du coup, pour moi, c'est parce que c'était pas bien. Enfin, d'être une fille, tu vois, j'avais l'impression que tous les personnages qui m'intéressaient, c'était jamais des filles. Donc, quelque part, dans ma tête, c'était...
Même pas Punky Brewster ?
C'était... Ouais, Punky Brewster.
Ah, d'accord.
Mais tu vois, il y avait un truc un peu compliqué qui se jouait là, quand même. C'est que j'arrivais pas à m'identifier à des personnages féminins, et je me disais pas, c'est parce qu'on ne nous propose pas de personnages féminins qui sont dans l'action et qui sont... Je me disais, c'est parce que c'est pas intéressant d'être une fille, tu vois, depuis toute petite, en fait. Donc voilà, il a fallu quand même que ce mouvement de bascule se fasse, et le fait qu'il y ait le collectif, le fait de devenir maman, le fait de parler avec d'autres femmes et tout, ça m'a... Enfin, pour moi, c'est vraiment devenir maman qui m'a fait basculer sur ce sujet-là, c'est clair.
Et du coup, c'est ça qui a été le point de départ de La naissance en BD, qui a été un gros succès pour toi, il me semble.
Ben, La naissance en BD, c'est déjà une réussite du simple fait d'avoir réussi à l'écrire. Parce que c'est de la vulgarisation sur le thème de la naissance. Et entre le moment où j'ai compris que je savais des trucs que les copines n'avaient pas, et le moment où j'ai écrit le bouquin, il y a eu un grand laps de temps, parce que syndrome de l'imposteur à fond, quoi. Tu vois, tu t'es dit, je suis auteur de BD, triste de BD, j'ai accouché une fois.
Et d'ailleurs, tu dis...
On me faire un livre sur l'accouchement, tu vois. Ça me semblait, je suis pas
assez... Ah oui.
Pas gynéco. Ouais, je me disais, c'est quand même un sujet un peu touchy, tu vois, pour plein de gens. Enfin, les gens ont plein d'idées reçues sur ce que doit être un accouchement, enfin, dans un sens ou dans l'autre.
Le pitch de La naissance en BD, ça démarre par « livre inutile ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le pitch commence comme ça, en fait?
C'est moi qui l'ai écrit, en plus. C'est les gens ne savent pas forcément, mais les quatrièmes de couverture ne sont pas toujours écrits par les auteurs. Et parfois, c'est écrit par les auteurs. Même quand on te demande de faire une...
Donc là, c'est ton texte.
Ouais, donc là, c'est mon texte.
Super.
Ce livre est inutile. Ouais. Ça commence par « Ce livre est inutile » parce qu'en vérité, l'accouchement, c'est une fonction physiologique du corps féminin. C'est-à-dire comme la physiologie, c'est la science du vivant. C'est comprendre les mécanismes du vivant quand ça fonctionne bien. C'est-à-dire la physiologie, ça peut être aller aux toilettes, par exemple, c'est une fonction physiologique, une fonction d'évacuation, tu vois, de l'urine, c'est une fonction physiologique. Respirer, c'est une fonction physiologique. Marcher, etc. Et donc l'accouchement fait partie des fonctions physiologiques du corps. Et donc on n'a pas à l'apprendre normalement. Tu vois, c'est quelque chose que les mécanismes se mettent en place dans notre corps automatiquement. Quand t'es enceinte, tu te dis pas aujourd'hui je vais fabriquer les orteils. Tu vois, c'est pas un truc. Ça se fait. Sauf que en tant qu'être humain, la limite entre naturel et artificiel, entre acquis et inné, est hyper ténue parce qu'on est prématuré et on est très empreint de l'environnement dans lequel on vit. Donc même ce qu'on va trouver beau ou ce qui va nous exciter sexuellement ou ce qui va nous plaire au goût, ça sera vraiment tributaire de l'environnement dans lequel on a grandi, tu vois. Donc pour l'accouchement, comme il y a une grande part physiologique, de pouvoir lâcher prise au moment où tu accouches, tu vois, de pouvoir laisser son néocortex.
Ouais, tu parlais de l'inhibition du cerveau reptilien.
Ouais, voilà, tu vois, les femmes, elles ont un cerveau humain, donc qui anticipe, qui imagine, qui prévoit, etc. C'est une de nos particularités d'être humain, c'est d'avoir ce néocortex surdéveloppé. Et ça, il faut pouvoir le mettre un peu en off pour pouvoir laisser le cerveau reptilien, donc le cerveau mammifère, prendre le dessus au moment de l'accouchement pour que les fonctions physiologiques se mettent vraiment en route, quoi.
Et le double lâcher prise.
Et quand tu as vécu dans une culture où t'as toujours entendu que tu accoucheras dans la douleur.
Les croyances populaires.
Voilà, qu'il y a eu des siècles aussi de chasse aux sorcières vis-à-vis du savoir des sages-femmes. Pour des histoires de pouvoir, hein, c'est toujours la même chose.
Tu parles des positions de l'accouchement aussi. Tu as fait quelques dessins là-dessus. Fait hurler de rire, mais c'est vraiment génial. Tu les as mis en gif en plus.
C'est cool, les petits dessins. Ouais, ouais. Donc en fait, quand t'as baigné dans cette culture-là, bah, c'est vachement difficile. De lâcher prise, et quand tu lâches pas prise au moment de l'accouchement, t'as de l'adrénaline, l'hormone de la peur qui vient et qui entrave le bon fonctionnement de l'accouchement, et puis qui est aussi entravé par toute une culture, parce que y a pas que la femme qui accouche qui a cette appréhension qui génère des douleurs, en fait, hein, c'est physiologiquement prouvé. Y a tout l'environnement, on encadre l'accouchement d'une façon qui est un peu trop intrusive, en fait, tu vois.
Et c'est très médicalisé, hein, c'est le terme.
Et en fait, quand on dit ça, ça fait peur parce qu'on dit ouais, mais il faut quand même. Oui, je sais pas pourquoi on accouche toutes dans le foin, tu vois. Je veux dire, toute seule. Enfin, je veux dire. Tu vois, il peut y avoir des choses un peu caricaturales aussi parfois. Donc non, c'est qu'aujourd'hui, on a la technique médicale pour accompagner sans être intrusif, en fait. Vraiment accompagner, tu vois, quand quelqu'un accouche, il faudrait l'observer de loin, sans intrusion, pour que ça. C'est sûr, ça. Je sais plus. Là, je suis partie un peu. Excusez-moi.
Non, mais t'as raison. Mais en plus, non, mais c'est intéressant parce
c'est
que c'est
ça, le bouquin, c'est sûr,
c'est des problématiques qui sont occidentales, parce que évidemment, dans certaines cultures, il y a un plus grand respect justement de l'accouchement naturel, un mammifère, on va dire, et les choses se font de façon tout à fait cool, quoi. Donc après, c'est sûr que il y a la peur du risque aussi, qui fait que dans nos sociétés occidentales, on surmédicalise, parce que on veut que tout se passe bien, et puis
c'est un sujet qui est la peur du risque. On a cette peur de l'accouchement qui est vraiment très ancrée. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que, en fait, c'est des problématiques à la fois économiques, patriarcales, enfin, tu vois, des histoires de gestion aussi des hôpitaux. Enfin, c'est plus rentable de mettre des machines avec des monitoring et de mettre les femmes toutes sous perfusion d'ocytocine pour accélérer et de. Enfin, tu vois, pour.
Oui, pour que. Allez hop.
Pas une seule sage-femme pour plusieurs femmes qui accouchent, tu vois, c'est vraiment.
On laisse la place à la suivante.
Ouais, tu vois, c'est vraiment une histoire de gestion aussi économique, quoi, tu vois, donc des corps, en fait.
Ouais, non, mais c'est super intéressant de le dire.
Mais donc c'est économique, c'est culturel. Bon, après, c'est aussi étonnant de voir que, sans aller très loin, tu vois, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, les accouchements sont beaucoup moins médicalisés, le recours à la péridurale est beaucoup moins fort. Et en fait, on pourrait se dire, ah, ben, les pauvres, on les fait souffrir, elles sont, tu vois. Alors qu'en vérité, si tu regardes vraiment les cartes de recours à la péridurale, tu te rends compte que souvent, les pays où on l'encourage le moins sont les pays les plus féministes. Tu vois, c'est la point de vue politique.
C'est intéressant.
Bah ouais, en Norvège, elles ont plein
ça
de
veut tout dire.
Ouais, dans les pays nordiques, elles ont plein de droits, de parité autour de l'arrivée d'un enfant et tout. Et pourtant, on leur donne pas de péridurale, mais c'est dégueulasse. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, non, si on donne pas de péridurale de manière systématique, c'est parce qu'on accompagne mieux le processus physiologique et qu'il y a moins de souffrance, en fait, tout simplement. Tu
ouais, bien sûr, ouais.
Ça devait être viscéral, du coup, pour toi, de traiter tout ça en BD. Ça devait vraiment être un truc...
Ouais, c'était viscéral de le faire au moment où la maternité dans laquelle j'ai accouché était prête à fermer, menacée de fermeture. Donc, j'ai fait des notes de blog qui ont été partagées par plein de gens, par Martin Van Clair, par des gens, tu vois, qui s'intéressent à ces sujets, quoi, et par le grand public. Et du coup, j'ai eu plusieurs propositions d'éditeurs pour faire cette BD. Sauf que c'était un sujet qui me faisait hyper peur et tu vois, je j'ai pas dit oui tout de suite, quoi. Ça a mis longtemps, en fait. Il a fallu que je trouve le bon éditeur, en vérité.
Tu dirais que c'est le premier, c'est parce que ça fait un bout de temps, voilà, ça fait 15 ans que tu fais de la BD, tu dirais que la naissance en BD, c'est le... Il y a eu un avant, un après, cette BD
c'est clairement, ouais. Bah, déjà, c'est un best-seller, hein. Enfin, long-seller, tu vois, ça fait un an et demi qu'il est sorti, ils vendent toujours pareil. Donc, tu vois.
Cool, génial, trop bien.
C'est et vraiment cool, ça. Tu vois.
C'est très drôle.
ouais, c'est clair, c'est cool. Et c'est la première fois que je retouche les droits d'auteur, tu vois, aussi vite.
parce que. Dollar.
Le Graal.
Mais tu rigoles, mais ça compte aussi de pouvoir vivre du truc. Donc, mais déjà, grave. C'est un point de bascule pour moi, d'un point de vue économique, qui va me permettre de sans doute me mettre à faire plus que de la BD, d'arrêter de jongler entre tous les boulots, tu vois. Et puis, ça m'a fait travailler sur du développement personnel de ouf, en fait.
C'est vrai.
De l'auto-développement personnel ou...
Non, pas du tout. Ça a été tellement difficile de me sentir légitime que j'ai fait vraiment des exercices de développement personnel.
D'accord, okay.
Mais ça, c'est arrivé avec l'arrivée de mon enfant aussi, tu vois. En fait, pour moi, l'arrivée de mon enfant, ça a été vraiment un gros booster de développement personnel parce que, tu vois, tout d'un coup, ça m'a envoyé. Ça m'a tendu un miroir, tu vois, avec tous les trucs un peu de traviole que j'avais. Hein, je me disais, en haut des épaules, bah, c'est comme ça, je suis comme ça, tu vois. Là, tout d'un coup, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie du tout de le transmettre, en fait, ce truc-là.
J'ai vécu pareil, vraiment pareil, c'est dingue.
J'ai une question un peu débilos. Pourquoi la bande dessinée comme médium, en fait, pour parler de tous ces sujets?
Parce qu'elle fait de la BD, bon sang.
Non, mais évidemment,
c'est question.
C'est la réponse. Mais je vais quand même la poser jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la BD qu'il y a par rapport à un blog écrit ou alors, par exemple, faire du stand-up, tu vois, pour finalement.
Ah ouais, Lucille, du stand-up!
Mais tu pourrais, mais je pense que t'as ce qu'il faut pour. Mais pourquoi la BD plus que tout? C'est ça ma question.
Putain, le truc sur le stand-up, excusez-moi du gros mot, mais ça me fait hyper plaisir.
Je t'en prie. Non, mais ton humour est très stand-up, c'est-à-dire ça marche très bien, c'est acide et c'est pas trash, mais c'est cash, tu vois. Voilà, je trouve. Mais nous, on fait souvent cette relation-là avec Jérémy entre le stand-up et justement l'art du séquentiel, l'art de raconter, le storytelling. Donc voilà, pourquoi toi la BD, c'est le truc en plus.
Alors déjà, au départ, je pense qu'il y a le fait d'aimer dessiner, hein, d'un point de vue très égoïste, mais toi petite, déjà j'aimais dessiner, mais pas pour dessiner, c'était toujours pour raconter des trucs en fait, c'était vraiment, je me servais toujours du dessin pour raconter des trucs. Là, le pourquoi c'est bien pour la naissance en BD en particulier, parce que c'est efficace, c'est-à-dire que ce qu'on me dit sur mon bouquin, c'est une BD, elle est grosse certes, mais elle se lit quand même relativement vite, et que parfois les mamans sont amenées à s'intéresser au sujet de la grossesse et de l'accouchement, par exemple, mais elles vont, parce que toutes les infos que je donne dans la BD, elles sont accessibles ailleurs, hein, tu vois, il y a des bouquins,
bien sûr,
pas inventé, tu vois, mais c'est des bouquins qu'il faut avoir envie de lire. Et là, par exemple, il y a beaucoup de papas qui la lisent, celle-là, parce que les mamans ont du mal à intéresser leur mec, en gros, sur le sujet, et la BD, ça les rend vachement plus accessible, en fait, tout de suite, t'as des...
On revient sur le fait que la BD, c'est un truc de mec. Hein, mais du coup, tu l'utilises à bon escient. Tu vois, c'est une boucle.
Ouais, c'est ouais. Super comme boucle. Je trouve vraiment intéressant. Ouais. C'est ça. Hein.
C'est le vrai. Ouais.
J'adore cette réponse. Ouais,
voilà. Et puis, je pense qu'il y avait aussi un truc dans la BD, c'est que je... Mais ça, je suis vraiment pas la seule, je pense. C'est pour un petit budget, tu veux dire, t'as besoin que de toi-même, en fait. T'as pas besoin... Tu vois, si tu veux faire un documentaire, c'est très compliqué... Pour faire des livres, je pense que le syndrome de l'imposteur sera encore plus grand, tu vois, pour faire des livres coécrits.
Bien sûr.
Là, je fais tout, tu vois, j'ai l'impression que rien n'est parfait, mais mis bout à bout, finalement, tu vois, ça...
Bah oui, ça transparaît d'humanité, et au final, c'est ce dont tu parles, c'est...
Ouais.
Enfin, je veux dire, parce que tu dis, c'est pas parfait, mais c'est justement, je veux dire, on parle du boxon, du bardel qu'est la vie, que, enfin, tout ça, quoi.
Ouais.
Bon, bref.
Non, non, mais c'est vrai, il y a un côté, comment dire, tu vois, la BD, pour moi, c'est très spontané, quoi. C'est vraiment une façon de m'exprimer très simple, en fait. Je dis pas que c'est pas fastidieux, que c'est pas long, que c'est pas machin, mais c'est que ça reste quand même la façon la plus simple que j'ai trouvée pour transmettre des choses, quoi, des idées.
Là, ça marche bien.
À tel point qu'il y a deux tomes là. Je vois propager oui. Vos super pouvoirs. Il est déjà sorti ou il va sortir?
Non, alors il y a trois tomes. Il y a le tome 1 qui est sorti, donc c'est découvrir vos super pouvoirs, c'est vraiment la base du processus psychologique, quoi. Le tome 2 que je suis en train de terminer qui s'appelle Amplifier vos super pouvoirs, où je rentre un peu plus dans les détails, c'est-à-dire je parle des différentes phases de l'accouchement, comment elles peuvent être différentes d'une naissance à l'autre sans être pour autant anormales, tu vois, ou pathologiques, quoi. En expliquant, voilà, je pense que ça va vraiment donner des clés pour faire des choix précis, plus précis, tu vois, ou pour pas paniquer au moment où tu es en train d'accoucher, si tu sais que ça peut arriver. Et que c'est normal, en fait, c'est ok, tu vois, ça t'aide à pas paniquer le jour J. Et après, il y a propager vos super pouvoirs, et là, c'est vraiment sur le faire ton projet de naissance, tu vois, choisir où tu vas accoucher, est-ce que tu préfères accoucher dans une clinique, un hôpital, avec une sage-femme libérale, enfin, tu vois, ces trucs-là, tu sais.
Oui, c'est un boulot de dingue en recherche, du coup.
Ouais, ouais, c'est beaucoup d'infos à glaner et aussi, surtout, après, à synthétiser, tu vois.
Ça doit être passionnant, ouais. Ça doit être passionnant de fouiller ce sujet qui te passionne et de le retransmettre et de savoir qu'il y a de la demande et que tu as du boulot, je sais pas combien de temps.
Ah ouais, là, en plus, on n'arrête pas de me parler, bah, j'y pense, parce que Madeleine serait contente, mais c'est vrai qu'on en parle tout le temps du postpartum, là.
Oui, bah oui, ça fait...
et c'est vrai que c'est un énorme sujet aussi. Et bah justement, là, je suis en train de parler avec Larousse. Ils sont venus me chercher pour adapter le livre de Anna Roy, La vie rêvée du postpartum, en BD.
Ah ouais.
Et donc, je sais pas, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais l'idée me plaît parce que ça m'éviterait de me cogner toute la partie, justement, recherche et validation de ce que j'ai trouvé comme info, enfin, tu vois, etc. Parce que là, c'est quand même...
quand tu dis adapter...
parle, donc...
Quand tu dis adapter, ça veut dire que tu vas amener ta patte en fait humoristique sur ce qu'elle avait déjà fait.
En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle vient de m'envoyer le livre. Apparemment, Anna Roy est super partante. C'est la Rousse qui m'a contactée. Après, il faut voir ce qu'on entend par adapter, parce que si c'est juste illustrer, mettre des illustrations par-ci par-là sur le texte, c'est pas très intéressant, je pense. Et c'est pas ce qu'elles veulent en plus. Donc voilà, mais il faut que je lise le livre pour savoir si c'est possible. Si... Mmh. Et puis certainement que dans ces cas-là, il faudra anglais. Tu vois, parce que son bouquin, je l'ai là dans les mains, il fait
500 pages.
Non, et ben, il fait quand même 190 pages, tu vois. Et si tu veux le rajouter des blagues, machin, faire des dessins, etc., ça peut vite devenir un truc énorme en fait.
Donc, ah, c'est clair.
Il faudra choisir vraiment l'essentiel. Voilà, faudra anglais. Ce sera pas l'intégralité de toutes les infos qui sont dans le bouquin d'Anna Roy, je pense.
Et du coup, entre ta trilogie sur les super pouvoirs, la naissance, cette adaptation, je fais une petite boucle là avec les éditions exemplaires. Tu vas sortir quoi chez eux? Donc on peut déjà savoir ou
c'est clair. Est-ce que là,
on va avoir un petit scoop,
c'est vraiment un
petit... Non, c'est mais juste.
C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait. J'ai toujours eu des difficultés relationnelles avec mes éditeurs. Non, c'est pas vrai. J'ai eu des éditeurs avec qui ça se passait très bien, mais soit il y avait un sentiment de frustration parce que ben je bossais pour eux et puis voilà, je veux dire, ils méditaient. Parce qu'avant, moi, j'avais le fantasme, je sais pas vous, mais que un livre s'écrivait avec l'appui d'un éditeur, tu vois, qui venait, qui lisait tes trucs, qui te disait ah peut-être ce serait vachement mieux comme ça. En fait, ça se passe pas comme ça. Enfin, moi, ça s'est jamais.
Il y en a qui le font. Il y en a vraiment qui le font. Mais c'est vrai que dans la majeure partie, c'est bah, je te laisse décrire le truc, mais c'est vrai que
ça s'est passé comment pour toi, Lucille?
Ben non, mais en effet, je fantasme ce truc de relation proche entre auteur et éditeur. Moi, ça m'est jamais arrivé, en fait. Et donc, ça a été plutôt souvent des petits bâtons dans les roues, quoi.
Ah, merde.
Tu vois, chez Glénat, voilà, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, après, il y a des choses qui sont très bien passées, mais... dans des maisons d'édition parfois qui sont pas du tout habituées à vendre ce type de livre que t'as fait, donc il y a beaucoup d'intermédiaires, tu vois, entre le lecteur et toi, en fait.
Ah oui, ouais.
Hyper
ça va être fastidieux.
Ouais, c'est tu vois, entre le moment où tu es en contact avec l'éditeur, puis toujours, alors aussi avant, enfin dans ma vie, il y a toujours eu le truc, c'est l'éditeur qui vient me chercher, tu vois. C'est l'éditeur qui a une idée de ce que il attend de moi.
Tu te fais choisir, ce n'est pas toi qui choisis.
Exactement. Et ça, c'est grâce à Internet. Je pense que sans Internet, j'aurais jamais fait de BD, en fait. J'aurais jamais eu l'idée de faire un dossier, d'aller chez un éditeur, en fait. Je pense que ça m'aurait semblé, tu vois.
C'était ton outil de tremplin, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu le mets, tu vois, à une époque où on se rendait pas compte de cet outil. Tu vois, tu le mettais, et tu mettais des choses sur Internet parce que tu avais envie de les faire. C'était très spontané.
Oui, t'avais pas de stratégie particulière, ouais, quoi. Tu faisais parce que ça te plaisait, quoi.
Exactement.
Parce que maintenant, c'est la stratégie à fond, hein, de tous les côtés.
Maintenant, c'est la stratégie à fond, mais parce qu'il y a les algorithmes qui se sont mis entre nous et le public.
Ouais. Fucking algorithme.
Le truc, c'est qu'avant, les blogs, je vais parler
d'autant que c'est complètement bidon.
Comme une vieille réac, mais quand j'ai monté un blog, ce qui se passait, c'est qu'il y avait peu de blogs BD, on découvrait les trucs des autres, on disait, ouais, il y a des copains comme moi, et on mettait des liens sur le côté des gens qu'on aimait bien, tu vois, des trucs.
Exactement.
Et c'est comme ça, les gens naviguaient de blog en blog, tu vois.
Exactement.
Et après, ben, on a tous quitté les blogs pour les Instagram, etc. Et le truc qui est fou, c'est que ben, l'algorithme fait le rôle de tri, comme qu'on voulait éviter avec les éditeurs dont je vous parlais tout à l'heure, tu vois. Alors non, j'exagère, parce qu'il y a des trucs super et des gens que j'aurais jamais rencontrés sans les algorithmes.
Mais parce que ça décuple, hein, voilà, faut dire ce qui est.
Mais ouais, mais malgré tout, tu vois, il y a un truc, par exemple, moi je vais plus du tout sur Facebook, j'ai quand même une page.
Pauvre Marc.
Ils ont racheté Instagram.
Mark Zuckerberg.
Ouais, je sais, mais voilà, c'est juste, de toute façon, ils ont racheté plusieurs trucs, ils s'en foutent.
Oui, voilà.
Bon, ils ont des beaux projets, t'inquiète pas pour
eux. Non, mais voilà, le truc qu'il y a, c'est que. Il faut pas que je cite de marque, c'est ça?
Ici, on peut.
Tu seras écouté par 160 personnes, ça
va. Oui, voilà, ouais, donc ici, on a le droit.
Donc, non, mais le truc, là, c'est que quand je poste un truc sur Instagram, ça se poste directement sur Facebook. Et la dernière fois, je vais sur... Enfin, la dernière fois, il y a un moment, j'ai vraiment pris conscience de ça, je vais sur Facebook, et Facebook me dit « Ça a été vu par 12 personnes, genre...
» Ouais, trop la
Venez
tristesse.
À mon événement à 12 personnes.
Votre publication a été vue par 12 personnes, likée par 3, donc c'est déjà un quart, tu vois, donc c'est quand même pas mal. Et donc, si vous voulez que plus de gens le voient, payez, tu vois, je sais plus, ils me disent payer. Ouais.
Bien sûr, tiens.
Et donc, je suis là, je me dis, ah ouais, donc il y a des gens qui se sont abonnés volontairement pour voir mon contenu sur ma page. Et maintenant, Facebook me demande de payer pour montrer ce contenu que je fais gratuitement à des gens qui ont demandé à le voir. Tu vois, donc ça devient un truc à
l'envers. C'est le truc à l'envers, ouais.
C'est hyper drôle, ça.
Il te dit, ouais, donc je vais payer pour montrer mon contenu à des gens qui ont demandé à le voir. Donc ça devient un peu, ça devient un peu pénible, quand même, je trouve. Donc voilà, la relation avec les éditeurs et les intermédiaires entre les lecteurs et moi, ça a toujours été un truc qui m'a questionné, tu vois, toujours. Et donc, Exemplaire, pour moi, c'est super pour ça, parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire avec les gens qui me lisent directement. Et comme j'ai pas, tu vois, on a tous des priorités différentes. Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'avoir un nom prestigieux sur leur couverture, tu vois, les éditions, un truc, ou les éditions machin, etc. Moi, vraiment, ce qui m'importe le plus profondément, c'est vraiment ma relation avec les lecteurs, quoi.
Oui, oui. Ouais. D'où le nom de l'épisode, remettre l'autrice au centre de sa production. C'était vraiment ce qui était ressorti de Lisa quand j'ai discuté avec elle. C'était, voilà, les éditions Exemplaires, elles sont là pour ça.
Ouais, et donc c'est pour ça que je m'apprêtais à faire de l'auto-édition en fait. Tu vois, je me disais, bon, mais avec tout le côté flippant de l'auto-édition, de... Et puis le côté un peu aussi très individualiste, tu vois, on fait tous chacun dans notre coin, notre bouquin auto-édité. Fin...
Ce qui n'est pas le cas d'Exemplaire, du coup.
Et voilà, et pour moi, donc Exemplaire, c'était vraiment le truc quand. Quand Thibaut, c'est Soutier, qui est un très bon ami à moi, qui m'en a parlé le premier. Et puis Marc Dubuisson aussi, avec qui je travaillais, on s'en était parlé à demi. C'était un projet secret au début, tu vois. Donc on se disait, mais sinon, tu vois, Marc, par exemple, je lui dis, mais sinon, tu n'aurais pas envie de faire quelque chose qui soit un peu hybride entre l'auto-édition et le collectif et tout, etc. Si, j'aimerais bien, et toi aussi, est-ce que tu as parlé avec Lisa récemment? Je me suis rendu compte que tu m'en étais tous les deux sur le même.
Ça va être cool, ça, c'est trop marrant.
Et donc, ouais, voilà, c'est pour ça que Exemplaire, pour moi, c'est super de pouvoir à la fois être dans un collectif avec des gens que j'apprécie énormément, que j'estime et tout, et en même temps pouvoir faire un peu ce que je veux directement avec mes lectrices, lectrices parce qu'il y a plus de femmes quand même. Mais... Et donc, ce que je vais faire avec Exemplaire, c'est ce que je fais. Sur Instagram, ce que j'ai fait sur mon blog en 2000, dans le fanzine en 2005, dans le blog, tu vois, après, de ce que j'ai fait, voilà.
J'ai
énormément de choses que j'ai publiées comme ça très spontanément depuis super longtemps, que j'ai jamais publiées en fait, tu vois. Donc, donc je vais faire un recueil avec des inédits, enfin voilà, je vais pas aller chercher midi à
14h pour ce
premier projet, tu vois, mais. Sur de mes strips et tout ça, avec un thème un peu. Et puis...
Donc il y aura Méphistophélès.
Ouais, il y sera.
Génial.
Ouais.
Et ça, ta campagne de crowdfunding, elle va sortir quand, tu sais déjà?
Mais ça devait être en septembre, là. J'ai tout prêt, j'ai la maquette en blanc, j'ai les devis d'un peu.
Oh là 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 là.
Ça devait être en septembre, et puis on a décalé parce que mon mec devait se faire opérer. Et puis voilà. Donc ce sera en janvier, en fait.
Ah, d'accord. On mettra tout le panel club sous le
Gilles qui a pris ma place. Gilles Boulet. Donc,
ouais. Voilà, il fait un crowdfunding de dingue.
C'était fois 100.
C'est 1400%.
C'est un truc de fou furieux, ça.
Et les plus gros levels, les plus gros paliers sont tous partis. Si tu veux un truc à 350 balles, tu peux même plus le prendre. C'est plus possible.
C'est fou une réussite à 1400%.
C'est énorme. Et du coup, ça rentre complètement la stratégie qu'explique Lisa dans l'épisode, à savoir en fait que elle a deux solutions pour justement pouvoir éditer de jeunes ou jeunes auteurs ou jeunes autrices. Ouais. Et il y en a une des solutions, c'est de s'engager de la part finalement de celui qui est bankable, de verser une partie qui va servir de fonds de soutien à des nouveaux auteurs, nouvelles autrices. Et alors avec lui c'est
mais oui, alors après je sais pas ce qu'il a signé hein, comme contrat.
Ouais, on sait pas.
Parce que chaque contrat est individuellement différent, c'est-à-dire...
On sait qu'il y a au moins 5000 balles
connaissant Gilles, je pense qu'il aura signé en effet pour cette option-là. Moi aussi, j'ai signé pour cette option-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je récolterai plus de 30 000 euros, je donnerai, tu vois, si je gagne 30 000 euros, je file 5 000 euros pour le fond du truc. Et donc voilà, mais lui, là, il en est, je pense que tu vois, connaissant, je pense qu'il aura fait ça sans problème, absolument aucun. Mais ouais, ça, c'est une option hyper cool des éditions Exemplaires, c'est clair.
Et on explique, hein, pour ceux qui auraient peut-être pas écouté l'épisode de Lisa, ah oui, mais on sait jamais. C'est en fait, en gros, ça coûte entre 8000 et 10000 euros pour monter un ouvrage. Et donc, en gros, bah, du coup, si les 8000 et 10 000 euros ne sont pas récupérés en crowdfunding, du coup le système de parrainage permet de rajouter la somme manquante, et si le bouquin du jeune auteur ou de la jeune autrice fonctionne bien, du coup l'intéressement est redonné à celui qui parraine.
C'est ça. Donc, en fait, en gros,
c'est un
en
cercle vertueux.
Quand on est parrain ou marraine d'un jeune auteur, on prend peu de risques en vrai. Tu vois, on peut se faire mousser, genre, ouais, je suis parrain, marraine d'un jeune auteur. Mais en réalité, tu prends peu de risques parce que si tu choisis de le parrainer ou de le marrainer, c'est que tu crois en lui, c'est qu'il a du potentiel et tout. Et en effet, tu n'es là que pour faire le trait d'union s'il en a besoin au moment de monter son projet, enfin, tu vois, de financer son projet, quoi. C'est-à-dire, après, le bouquin se vend et au fur et à mesure de ses ventes, il peut, tu vois, te rembourser. Ou pas, mais c'est à toi de le voir. Mais en vérité, c'est une super solution pour pas mettre la structure en danger, tu vois, tout en soutenant des nouveaux projets. Enfin, je trouve que Non, ça a été super bien pensé, exemplaire. Ah, et ce qui est vachement agréable avec Lisa, c'est qu'elle, elle y pense, comme elle le dit dans ton podcast, d'ailleurs, elle y pense depuis super longtemps. Elle a un cerveau qui va vite et qui fonctionne bien et qui, tu vois, a plein d'idées. Sauf que moi, quand elle m'a contactée, je sais pas, c'est un peu comme une conversation avec mon comptable, qui est adorable. Et à la fin de la conversation, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Puis quand je raccroche et au moment où je suis en train de dis, attends, ça c'était quoi déjà, j'avais compris,
je connais cette sensation.
En fait, voilà. Et avec Lisa, ça m'a un peu fait ça, et je suis pas la seule, c'est pour ça que j'ose le dire, je ne suis pas seule. C'est que au moment où elle m'a parlé du projet et tout était hyper clair et tout ça, et au moment où moi j'ai commencé à monter une équipe autour de moi, tu vois, à me demander est-ce que je vais prendre un graphiste ou pas, est-ce que je vais avoir un suivi éditorial, qui va être un suivi de fab, et surtout à parler aux gens que je voulais prendre à mes côtés, avec qui je voulais travailler, des contrats, tu vois, de comment je vais les rémunérer, en fait. Tout d'un coup, j'ai eu des gros doutes, tu vois, c'était, mais en fait, est-ce que je vais être correcte avec eux? Parce que c'est une bonne chose de vouloir être payé mieux pour son travail, tu vois, mais j'avais pas du tout envie d'exploiter les gens avec qui je bossais, tu vois, et j'étais pas très capable de leur dire combien ils allaient toucher d'argent à minima, tu vois.
C'est pas évident.
Oui, mais c'est en fait,
c'est ça, puisque c'est tout le monde est payé au pourcentage, à part l'imprimeur. Donc, en fait, tant que t'as pas fait de vente, tu sais pas combien tu vas les payer. Et or, pour faire des ventes et monter ta campagne, t'as quand même besoin, bah, par exemple, le suivi de Fab, c'est lui qui s'occupe de faire faire les devis chez des imprimeurs. Donc, tu commences à le faire bosser quand même, avant même que la campagne de financement participatif soit mise. Et tu vois, et donc, ça me posait problème et tout.
Et maintenant?
Donc, j'ai trouvé des gens, tu vois, qui étaient là, non, mais moi, je veux le faire avec toi, machin, de toute façon. Mais moi, je me sentais trop mal à l'aise, tu vois, pour leur dire, bah, attendez un an avant d'être payé. Parce qu'en fait,
bah, il suffit de dire les choses, en fait.
C'est ça, tu vois. Mais ils le savaient, hein. Mais c'est juste que moi, j'aurais voulu que ce soit, enfin, voilà, que ce soit très clair de pouvoir leur dire combien ils allaient toucher. Parce qu'en fait, tu vois, il y avait des petits points de questionnement. C'est par exemple, comme tu fais une campagne, tu demandes 10 000 euros pour ton livre, pour financer ton livre. Sauf que peut-être qu'avec les goodies, tu vas toucher 5 000 euros. De goodies. Or, les gens ne sont payés au pourcentage que sur tes livres, pas sur tes goodies. Tu vois?
Ouais.
Donc, du coup, je me disais, ouais, mais bon, même si j'atteins les 10 000 euros, peut-être que eux, en pourcentage, il leur restera peu de balles, en fait. Tu vois? Parce qu'ils font le pourcentage sur les livres et pas sur le reste. Et là, Lisa me disait, mais non, il faut pas faire de pourcentage sur les goodies, parce que ça fout tout en l'air et tout. Et donc, j'étais un peu perdue. Et en vérité, le truc qu'il y a, c'est que si au bout d'un an, t'as pas, tu vois, tu établis combien tu veux payer à minima ton graphiste si t'en as un, t'as un suivi éditorial si t'en as un, ton suivi de fab si t'en as un, etc.
Ouais.
À minima, tu établis combien tu veux les payer, les rémunérer pour le travail qu'ils ont fait. Et si au bout d'un an, ils n'ont pas touché cette somme minimale, la structure exemplaire s'engage à les payer quand même, tu vois.
D'accord.
Ils n'y arrivent pas, en fait, en vérité, parce qu'ils sont... Déjà, dans les maisons d'édition classiques, ils ne sont pas très bien payés. Donc, en vérité, ça n'arrivera pas. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Tu vois qu'il y a besoin de faire ces rallonges. Mais pour moi, ça a mis un moment avant de ce que je viens de vous expliquer là, avant de le figurer bien, de me dire, bon, bah, comment on va faire? Je ne veux pas.
Les choses se sont clarifiées pour toi aujourd'hui.
Ouais, les choses sont clarifiées pour moi parce que quand on parlait entre auteurs, même ceux qui avaient déjà fait leur campagne, il y a des trucs qui ne savaient pas me répondre. Tu vois, ils étaient en flip.
Oui, c'était dedans.
C'est
pas tort.
En plus, c'est des copines qui ont fait le graphisme pour moi.
Du coup, tu as culpabilisé les gens.
Et en fait, c'était important aussi, tu vois, de comprendre les trucs, parce qu'on s'est parti, on a lancé le truc à la Lisa. Lisa lui a tous fait confiance de ouf, quoi. C'est-à-dire, allez, banco, on fait la campagne de financement, et puis on n'avait rien signé, même au moment où on a lancé la campagne, tu vois, c'était dans le truc. Et au fur et à mesure, plus ça va, plus moins je regrette, quoi, tu vois, d'avoir fait confiance complètement, parce que franchement, les relations sont horizontales, on peut discuter des trucs, on trouve des solutions, elle a vraiment à cœur qu'on puisse trouver des solutions à chaque fois. Et puis si tu veux filer 15% de tes droits à ton graphiste, t'as le droit, hein, mais bon.
Oui, voilà, oui, c'est pas... Ouais, bien sûr.
C'est qui décide. Puis, j'imagine que le flou, c'est aussi, bah, vous commencez quelque chose de nouveau. C'est jamais vu, je veux dire, dans le milieu de l'édition, notamment en France. Donc, c'est normal qu'il y ait des zones de flou et c'est hyper... hyper cool que vous ouvrez et que vous défrichez un nouveau chemin. Peut-être que d'ici quelques années, pour d'autres personnes qui passeront chez Exemplaire, ou si ça inspire d'autres structures,
il y a des chances.
Bah, ce sera peut-être plus fluide, et c'est grâce à vous. Et c'est, moi, je trouve que c'est hyper inspirant comme modèle économique.
Bah tiens, si on parle sous, là je suis sur la page des financements. Alors sachez que à l'heure où on parle là, en ce moment, il vient de sortir le financement pour le prochain bouquin de ouais. Voilà de Barbarian Wawa. Ça vient de commencer. Là, pendant qu'on parlait, ça s'est affiché. Donc il y a déjà 2% de l'objectif atteint. Et je voulais revenir aussi sur Caroline Nasica, qui est donc une des jeunes autrices, base elle n'est pas connue, voilà. Et elle est déjà à 215% de l'objectif atteint, ce qui veut dire que en fait le système fonctionne, puisque a priori elle a pas besoin de parrainage, puisqu'en fait déjà le finalement exemplaire a suffisamment de visibilité et puis sa communauté visiblement a bien aidé. Elle est déjà à 17 000 € sur les 8 000 de base nécessaires pour
faire quelqu'un. Elle est la cliente parfaite parce que elle a l'âge d'Instagram, enfin tu vois,
exactement,
une vingtaine d'années, tout son lectorat sur Instagram, parce qu'il y a des gens hyper forts en BD. Ils ont 3 abonnés, tu vois, donc c'est pour eux le modèle économique est moins.
Mais c'est ce que me disait Lisa, il faut que pour représenter quelqu'un ou éditer quelqu'un dans la structure, il faut quand même un minimum de followers, parce que je ne sais plus si elle le dit dans le podcast ou en off, Lisa, mais elle me disait que
10 000.
Ouais, Caroline, elle l'avait repéré déjà avant, mais que pour qu'elle n'avait pas assez de followers. Donc
on revient toujours à ces... En fait, ce qu'on a fait là pour Caro. Tout le monde adorait chez Exemplaire les trucs qu'elle faisait, tu vois. Comme il y a des éditrices qui travaillent pour Exemplaire, il y en a une qui est Marion Arminalian, je ne sais plus exactement comment c'est son nom, mais qui a fait le coaching de Caro et les Zinzins.
Pour l'aider à monter.
Pour l'aider à augmenter son nombre d'abonnés.
C'est incroyable, c'est génial. Intéressant que l'écosystème.
Ça m'intéresse.
Ben, en fait, si tu veux, moi-même, je me suis dit. Putain, mais moi aussi je veux être coaché.
je veux plus de followers.
Parce que c'est cool, je sais pas exactement ce qu'elles ont fait, mais enfin, je sais,
oui,
par exemple,
c'est impressionnant.
Elle a suggéré des collaborations avec Livio. Vous voyez comment il s'appelle, Livio. Je sais plus. Bref, un Instagrammeur qui fait de la BD aussi, qui est super et tout.
D'accord.
Voilà, ils ont fait des trucs, tu vois. Elle fait de plus en plus de stories, enfin tout ça. Après, c'est du boulot hein, de faire augmenter ses abonnés. Mais ça a super bien marché. Et ce qu'elle fait, ça marche super bien. Et franchement, moi, j'avais pas de doute du tout sur le fait qu'elle remplirait son objectif, quoi.
Et pour parler chiffres et ramener encore un truc intéressant, il y a 539 contributeurs actuellement sur sa campagne Elbe pour Caro et les Zinzins.
Ouais.
Et en fait, à la base, Lisa expliquait qu'il fallait à peu près 700-800 personnes pour que ça soit vraiment, vraiment nickel, qui participent. Mmh. Et là, en fait, ce qui prouve que les 500 contributeurs, mais ils mettent plus que prévu, en fait.
Oui, en fait, parce que l'avantage d'une campagne de financement participatif, c'est une campagne de pré-vente, en fait. Hein. Maintenant, on fait plein de mots. Ça existait déjà dans les années 80, les pré-ventes, hein, mais bon.
Non, mais on est d'accord, c'est le principe. Oui,
l'avantage, c'est que tu proposes des choses que tu pourrais pas proposer à d'autres moments. Tu vois, dans le moment du lancement du livre, tu proposes des livres dédicacés,
des goodies,
des tote bags, etc. Tout le monde en fonction de ce qu'il a envie de faire, quoi. Mm-hmm. Et ça, les lecteurs, c'est cool pour eux, ceux qui aiment vraiment ton travail, qui te suivent de près, etc. Donc, en fait, parfois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui me posait question sur la rémunération des graphistes et tout ça, c'est que parfois, tu gagnes plus d'argent avec les à côté qu'avec la vente des livres en elle-même. Tu vois ?
Oui, c'est dingue.
Donc ça te permet d'imprimer le livre qui en est en stock, et après le site de Exemplaire fait librairie en ligne où les libraires peuvent commander le livre facilement pour l'avoir. Tu vois, donc tu peux te procurer le livre même après la campagne. Mais l'avantage, c'est que dans une campagne, t'as pas forcément besoin de beaucoup de monde si c'est peu de gens, mais très engagés dans ton, tu vois.
Ça s'appelle les true fans.
C'est ça. Guillaume Long, très vite, il a atteint son objectif, mais il a vendu des aquarelles originales et tout ça. Tu vois, avec des packs assez chers. Donc il a atteint son objectif très vite avec peu de livres vendus, en fait.
Ouais, moralité, ça marche.
Ouais, pour l'instant, ça marche bien.
Voilà.
Non, c'est super parce qu'en fait, bah, je pense que c'est un sujet qui intéresse vachement les membres du Patate Club parce que la créativité c'est bien, faire produire c'est super, mais c'est vrai après comment on en vit, comment ça devient un succès aussi, ça c'est hyper important. Et je trouve que là de pouvoir sur un épisode comme ça de parler concrètement des vraies sommes, du vrai nombre de gens dont on a besoin pour que ça ouais. existe, puis surtout ce côté peer-to-peer entre l'auteur et son public.
Ouais.
Là, je pense que cet épisode là il apporte vraiment beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour ceux qui veulent se lancer dans des choses comme ça.
En fait, ça montre aussi qu'il faut donner de sa personne, quoi. Parce que quand tu parles de vendre ou en contrepartie des aquarelles originales et des trucs.
Faut les faire.
faut y aller. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon Kickstarter il y a quelques années, là, en 2018. Les gens se souvenaient presque plus de la campagne de financement participatif, toute l'énergie que j'avais mis dedans. Que le produit fini au final où les gens étaient contents, mais ils avaient surtout été marqués par l'énergie que j'avais mis dans la promotion. Et bah après les contreparties, les trucs à envoyer et tout, ça bouffe un temps.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a la campagne avec l'exemplaire, ça aide énormément. Que la sœur de Lisa, elle en parlait dans fasse la diffusion, se soit montée en tant que diffuseur, enfin tu vois, parce que moi je l'ai fait aussi, j'ai un Tipeee. Donc au début,
ah, oui.
Tipeee, je proposais des contreparties, tu vois, où il faut aller à la poste, imprimer des trucs et tout ça.
Et là tu fais tout seul.
En fait, c'est un temps. Au début tu proposes en plus sur Tipeee, c'est vraiment censé être du mécénat. Tu vois, donc les gens ils ont même pas. Ils sont là plus parce qu'ils aiment ton travail et que
pour te soutenir,
le contenu que tu fais gratuitement pour internet, tu vois. Et du coup, ça devenait pas du tout rentable au bout d'un moment.
Bah oui.
Tu dis, Jérémy, c'est hyper important, c'est hyper important. Mm-hmm. Parce que après, on peut tomber dans une surenchère de dons de soi là, qui.
Ouais, bah j'en étais victime de ce truc. Il peut vraiment se cramer les ailes et la fatigue et la santé mentale en se disant, mais je fais quand même ce qu'il faut, on m'a demandé et tout, et puis c'est des belles valeurs, et puis c'est de l'horizontal et tout, mais à un moment donné, tu, à force d'être dans le don de soi, tu finis par te saigner, quoi. Et puis,
ouais. Ce qui prouve encore que le collectif en fait est toujours la bonne solution en fait, parce que évidemment on est toujours confronté quand on veut se lancer dans des challenges comme ça, on est confronté aux grosses machines qui elles bah forcément fonctionnent en équipe, hein, de base c'est des entreprises, et si à côté de ça on n'est pas capable de se mettre en collectif pour aller justement plus loin, plus fort, et c'est ce que prouve le projet exemplaire, c'est compliqué tout seul, c'est vraiment compliqué, c'est des trucs à se tuer la santé,
c'est
le
burn-out,
tu l'as quoi.
Tu vois par exemple ce que Lisa a fait, c'est du collectif qui fait du collectif, le Patate Club c'est pareil, c'est du collectif qui fait du collectif. Quand on repense à ma campagne en 2018, c'était moi tout seul qui faisais du collectif, enfin tu vois c'était genre là en fait chez Exemplaire ou dans le Patate Club, on est tous ensemble pour faire des choses ensemble, et je pense que ça enlève un poids et ça encourage, ça stimule, ça encourage, c'est vraiment toute une autre énergie. Et je sais que non seulement une année exemplaire, le défi que Lisa s'était donné, ça m'avait déjà beaucoup inspiré, puis après le fait qu'elle bosse sur la santé mentale pour se rétablir, ça m'avait inspiré, mais quand j'ai découvert des éditions exemplaires, hein, que j'ai découvert quand vous avez lancé la campagne en janvier, là moi j'étais genre immédiatement, j'étais genre je veux parler à cette femme, parce que c'est vraiment une énergie qui je trouve est... C'est le turfu, quoi.
Ah ben, franchement, oui, c'est moi je trouve je suis complètement en raccord avec ce que tu dis. Puis il y a ce truc vraiment de sortir des relations très très hiérarchisées qui pour moi ont toujours posé problème.
Exactement, ouais, pareil.
Moi j'ai un petit peu un problème de plus en plus, depuis que je suis devenue et maman et que j'ai compris plein de choses sur le féminisme et tout, j'ai de plus en plus de mal avec le côté « il faut demander l'autorisation à papa », tu vois.
Ah ouais, non, bah ça rend fou, quoi. Je suis pas une femme, mais ça me rend fou, quoi.
Donc, ce truc-là, où tu demandes conseil aux autres plutôt que leur demander l'autorisation.
Autorisation,
à toi-même.
Tu te nourris de leurs expériences et eux des tiennes. Ouais. Enfin, tu vois, c'est exactement ça, exemplaire.
C'est s'inspirer au lieu de se demander l'autorisation, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment avancer ensemble et puis pas tirer profit les uns des autres. C'est parce qu'on est tous ensemble qu'on génère plus de confort économique,
yes.
Tu vois. En fait, j'ai pas l'impression de me faire exploiter par Lisa Mandel quand je fais partie de la campagne de lancement de
Oui, non, c'est bien de le dire, ça. Ouais, c'est, ouais.
C'est... Alors que parfois, avec les éditeurs, c'est un rapport qui est très complexe. Je le vois chez moi, mais chez des confrères et consoeurs, si tu veux. C'est-à-dire, il y en a, ils sont hyper... parfois, tu la rencontres, hyper gaucho, tu sais, à casser du sucre sur les gros patrons et tout machin. Et quand ils se retrouvent face à un éditeur, ça devient des petits toutous hyper, tu vois, impressionnés. Non, mais il faut pas le froisser. Non, mais après, si je demande trop, tu vois, si je demande trop d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il m'aimera plus. Enfin, tu vois, des trucs comme ça qui sont très compliqués, en fait, parce que on a tous besoin de se sentir légitime et aimé, en fond, tu vois, un truc comme ça.
Ouais, c'est la base, hein, ouais.
C'est une fonction physiologique de l'être humain.
Voilà, dans les bases, c'est ça, exactement. Et que du coup, ça fait des relations très compliquées, je trouve, avec les éditeurs. Parfois, tu vois, il y a une espèce de crainte de l'éditeur, alors que, ben, au départ, c'est censé être quelqu'un qui collabore avec toi, pas quelqu'un qui, tu vois, qui est au-dessus de toi. Et ça, dans le côté collectif, on retrouve ce truc de collaboration, voilà, qui est assez cool.
Est-ce que, Lucille Laurent, il y a autre chose qui vous a sauté aux yeux dans l'épisode avec Lisa Mandel, quelque chose qui vous a interpellé, parlé, et que vous voulez à tout prix, qu'il faudrait qu'on en parle?
Alors moi, oui. Lucille, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Non, je crois pas. Il ne faut pas me poser ce genre de questions. Je vais parler encore.
On va faire un épisode en deux parties.
Du coup, je vais essayer d'être très synthétique, mais ça va l'être. Moi, il y a une chose que je retiens, en fait, de cette année exemplaire de Lisa Mandel. C'est, alors, en fait, moi, je l'ai découvert, en fait, quand elle a commencé le décompte, c'est-à-dire le compte à rebours. Évidemment, je suis Lisa Mandel avant, mais j'ai accroché vraiment le wagon au tout début. Ça me faisait hyper marrer, évidemment, c'est sûr. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a commencé ce chemin-là. Et il lui est arrivé plein de choses pendant cette année exemplaire-là, puisqu'elle s'était lancée 15 milliards de défis, et évidemment, c'était pas évident à accomplir, puis il y a eu des embûches, il y a eu des événements. Et au final, elle a retiré deux choses, de ce parcours-là, c'est qu'elle a su qu'elle voulait faire de l'auto-édition, c'était vraiment la première chose importante. Et la deuxième, c'est qu'elle était capable de faire une planche de BD par jour, même pas un dessin, une planche de BD par jour. Ce qui est top, c'est que, encore une fois, on a la démonstration que quand on commence un voyage avec un objectif, ben en fait l'objectif peut complètement changer. Et c'est le voyage qui transforme, et c'est le voyage qui amène à trouver en fait qui on est vraiment, et à déboucher sur quelque chose encore plus formidable que ce qu'on imaginait au début, même si on n'a pas atteint les objectifs de départ. Et ça, bah bravo Lisa, je trouve que elle a réussi complètement son voyage, et puis la preuve aujourd'hui avec exemplaire. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Ouais. Non, mais c'est clair que Lisa, elle est hyper inspirante pour ça, parce que c'est l'idée est toujours suivie d'action, tu vois, parce que parfois on peut se perdre
dans
les doutes et les questionnements. Lisa, son idée est toujours suivie d'une action, et quand on avait pris le train ensemble, je me souviens, elle m'avait dit un truc. Elle m'avait dit, mais moi, je fais des BD comme j'ai envie de pisser, quoi. C'est-à-dire, j'ai une idée, il faut que je la fasse, quoi. Il faut que j'y aille tout de suite, quoi. Il faut que ce soit maintenant. Et ce truc d'être synchronisé entre les envies et l'exécution, puisqu'on a de l'envie, pour moi, c'est très inspirant, parce que on est nombreux, tu vois. En fait, je pense, j'avais vu un sondage il n'y a pas longtemps, 80% des gens aimeraient sortir un livre un jour, aimeraient écrire un livre, en fait. La seule différence entre un artiste et toi, qui n'a pas encore écrit de livre, je dis toi, mais je parle de quelqu'un, n'importe qui, c'est qu'il y en a un qui le fait, quoi, tu vois. Et donc, il fait des merdes au début, il fait des trucs pas forcément géniaux tout de suite, etc. Mais il y a vraiment cette mise en action qui est hyper importante. Et Lisa, elle a vraiment ça en elle, quoi.
Ne pas avoir peur de faire de la merde. C'est quand même important.
C'est un moteur énorme, quoi. Elle a une exigence quand même. Et quand tu dis une page par jour, mais en plus, elle en faisait plus, parce qu'elle n'avait pas que son année exemplaire sur le feu.
Ah oui.
C'est vraiment
un truc de malade, tu vois. Ouais, après, ça, c'est le truc qu'on se remet tout seul, mais l'engagement vis-à-vis du public était celui-là.
Ouais.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Il ne faut pas oublier ce que tu fais.
Ça l'a forcé à être créative, à trouver des petits twists et des petits...
Ah, t'as pas le choix, là. Ah oui. Et puis, comme elle dit, elle se retournait pas, quoi. C'est-à-dire, elle fait un truc, c'est fait. Et puis, alors, ce qui était complètement dingue aussi, c'est qu'elle répondait elle répondait au message, en fait. Donc, il y avait évidemment 95% de super messages. Il y avait 5% de messages qui étaient hyper polémiques parce qu'elle abordait certains sujets et elle venait se justifier. Donc, elle devait encore répondre à ces messages-là en plus. Donc, le côté un peu boulimie du projet était hyper présent, quoi. C'est impressionnant l'énergie qu'elle a mis.
Tu l'as lu, toi, Laurent, son dernier exemplaire, la BD?
Oui, bien sûr. En fait, je l'ai suivi sur Instagram. Donc, je lisais au jour le jour. J'ai pas le bouquin, donc il faut absolument. Je le commande, mais voilà quoi.
Mais enfin, j'ai pas lu un bouquin, je dois avouer. Tu l'as lu, toi, Jérémy, un bouquin?
L'année exemplaire?
Ouais.
Ouais, je l'ai lu, je l'ai chez moi. J'en ai profité quand je l'ai rencontré pour me le faire dédicacer. Voilà.
Parce que je sais pas, moi, j'ai le livre aussi, mais je l'ai pas lu d'une traite. Et je sais pas comment ça fait, du coup.
C'est agréable
de retrouver sa copine tous les jours qui te raconte sa journée, tu vois. Il y a un côté super.
J'ai vraiment eu l'impression de lire un mastodonte, quoi. C'est-à-dire, on devient vachement proche avec Lisa parce qu'on suit vraiment toute l'évolution de son projet. Et on rigole avec elle, on souffre avec elle, on est touché avec elle. Et puis, mais quand tu l'as fini, tu te dis, OK, waouh. Et en fait, je l'ai lu, tu vois, début d'année. Je sais plus, ça devait être au mois de mars, un truc comme ça. Et je l'ai pas relu, parce qu'habituellement quand j'interviewe quelqu'un, j'aime bien me remettre un peu dans le bain, vraiment d'aller. Je me suis pas rebouffé le bouquin parce que c'est quand même un gros pavé. Et j'ai plus été explorer tout le reste de son univers et je suis resté avec les impressions générales que j'avais. Ouais. De sa BD, mais ça se lit vraiment bien en BD, quoi. Mais bon, tu te le farcis pas en deux jours.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est vachement dense.
Après, tu pourrais presque passer à un nouveau défi, c'est-à-dire que tu lis une fois par jour, tu lis une planche de.
Tu fais un compte Instagram sur le fait de.
T'es en train de lire et tu commentes, voilà.
De la mise en abîme, ouais, c'est ça, ouais.
C'est de la méta lecture.
Voilà. Ouais, ça, tu fais la mise en abîme infinie. Après, on peut imaginer
anecdote de taré. Il y a un gars qui fait un record du monde actuellement. Il va voir le premier épisode de Kaamelott au cinéma. Il regarde le maximum de séances. Et je crois qu'il doit dépasser 201 séances pour battre le record du monde. Un truc de dingue, quoi.
Ouais. Il va voir 200 fois le film.
201 fois, il doit aller le voir. Donc en fait, du coup, comme il connaît le film par cœur, il sert en fait d'analyste pour les fans. Les fans lui posent des questions, ils disent tiens, combien de fois par exemple le roi Arthur il dit tel truc dans le film, et lui en fait il passe sa séance à noter combien de fois il dit, puis il donne les rapports à la fin. Donc oui, des challenges débiles, il y en a plein.
Je m'étonne que c'est un succès au cinéma.
C'est à cause de lui. J'ai plus son nom, mais voilà, vous trouverez.
Ah, ça explique.
Anecdote est connue.
cool.
Bon, et marrant. Puis en effet, on peut parler de la santé mentale au bout d'un moment. Parce...
c'est clair.
Voilà. Et hop, boucle.
Non, c'est du sport. Non, mais c'est un athlète, le gars, quoi. C'est ouf.
Incroyable.
Grave. Bon, merci Laurent pour cette anecdote.
Oui,
est-ce que ce serait le moment de passer à la petite purée du Discord? Qu'est-ce qui s'y passe par là aujourd'hui?
Alors déjà, c'est complètement dingue parce que à la suite du pique-nique, forcément, du coup, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints et rejointes sur le Discord. On est actuellement à 160 patates à l'intérieur du Patate Club. Donc,
sur le Discord, on est 500, un truc comme ça, je crois.
Ouais, je pense qu'on avait passé les 500. La dernière fois, j'avais regardé, c'était 510, donc on doit être à 525, peut-être un truc un peu comme ça. Donc voilà, ouais, la communauté, elle commence à être extrêmement active. Moi, personnellement, je n'ai absolument plus la capacité mentale de lire tout. Ça y est, même moi, je suis dépassé. Donc on a atteint un niveau de dingue. Mais par contre,
sûr, avec le Patate Club, c'est que 160, ça reste une jolie. Enfin, je veux dire, on se connaît bien, etc.
Ouais, c'est vrai. En plus, oui, ça permet. Et puis, on rencontre toujours des nouvelles personnes. Hein. On a vu au live, il y avait plein de nouvelles patates qui étaient venues. Et ce que je dois dire, c'est que là, actuellement, ça tourne tellement bien que tout le monde trouve un petit peu son rythme et son environnement préféré à l'intérieur du serveur. Et les discussions sont vraiment, vraiment très poussées. C'est hyper intéressant. Je pense pas que les gens viennent perdre leur temps ou procrastiner dessus parce qu'il y a vraiment des sujets où ça débat de problématiques urgentes. Il y a eu des calls impromptus pour des personnes qui avaient besoin de réponses rapides et les calls se sont faits dans la journée. Donc ça, c'est une espèce de coworking aussi en visio qui marche très bien. On a aussi augmenté la capacité administrative du site, puisqu'on on a recruté de nouveaux administrateurs administratrices. Donc je salue Liste, Lutostinato, Marine et Clémence de Besson qui nous ont rejoint dans l'aventure avec Camille Eplin et Lucille Farouni. Et donc voilà, donc c'est top. N'hésitez pas à les solliciter, ils peuvent aussi vous répondre aussi bien que moi. Donc
quels sont les sujets qui font le buzz un petit peu en ce moment sur le, parce que comme Laurent, moi je suis 10 enfin non, Laurent il suit beaucoup plus que moi, pardon, mais moi je suis 10 à 15% de ce qui s'y passe, donc moi je prends les nouvelles en fait quand je fais le podcast avec Laurent, Lucie.
Oui, c'est vrai que je suis 90% de ce qui se passe, je pense que je loupe 10% quand même. Mais là, il y a eu un sujet sur le démarchage qui était vraiment très bien, qui justement a permis de lancer un call. Je crois que c'est Tiffen qui a fait tout un résumé, un compte-rendu de toutes les idées de tout le monde sur des tas de tips pour démarcher et des choses à pas faire aussi. Donc allez voir dans la section démarchage. Voilà, ça c'était vraiment le sujet brûlant de ces jours-ci, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, j'ai cru voir aussi que le projet de fanzine a repris du service.
Oui, voilà. On peut pas dire grand chose pour le moment, mais en fait, Florie et Charlotte sont à nouveau sur le coup. Donc on va certainement faire un petit call prochainement pour remettre les choses en place. Puis évidemment, je pense qu'il y aura un appel à volontariat pour ceux qui ont envie de
participer. Il y a un topic qui est ouvert à tous sur le fanzine ou c'est
ça? Non, pour le fanzine, non. Pour le moment, non. Parce que c'est encore, c'est encore backstage, mais ça viendra vite.
Si vous écoutez cet épisode et que vous avez loupé un peu ce sujet, vous pouvez aller écouter l'épisode du Patate Club Podcast avec Charlotte Mola. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer un objet, un fanzine collectif justement qui sortirait en 2022. On a envie de faire une belle chose, donc si vous avez envie de reconnecter les wagons, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a...
Ouais, il y a encore une info importante. Le projet Grand Paris, donc l'appel à candidature pour participer à ce projet de dingue a été repoussé de 9 jours. Donc ça sera le 24 septembre. Voilà.
Oh, ok, bon, ça va.
Okay. Donc je sais pas quand tu sors l'épisode.
Lundi,
on sera le 21. Donc du coup, il vous restera 3 jours. Voilà. Donc c'est assez repoussé au 24 septembre. Je pense qu'il y a beaucoup de membres qui ont participé. N'hésitez pas, en fait, il y a rien à perdre, en gros, à faire un dossier. De quoi?
Est-ce qu'il y a des nouveaux workshops qui sont en train de s'organiser?
Oui, mais pour le moment, c'est encore un petit peu en balbutiement. Il n'y a pas encore de date particulièrement prévue. Il y a Marion qui a lancé son workshop Cadavre Exquis qu'elle organise tous les mois. Donc demandez hein, si vous voulez faire partie du workshop. En gros, c'est un workshop où on s'amuse sur une thématique et c'est un cadavre exquis, donc on se refile les dessins.
Il n'y en a pas un nouveau sur Procreate? C'était pas prévu?
Si, mais c'est pas encore en place. Voilà. Okay. Pour le moment, on peut pas dire.
Et les nouveaux avec Geoffrey sur l'administration, je balance.
Balances, mais alors non, vraiment pour le moment c'est la reprise pour le coup pour les patateliers, elle est un peu plus douce, on va dire. Mais ça c'est parce que tout le monde est très actif en ce mois de septembre et c'est pas, je pense, oui, pas évident. Donc les ateliers vont certainement revenir plutôt vers octobre.
Okay. Et comme on sait maintenant que vous nous écoutez un peu partout en France et même en Belgique et dans d'autres pays, les membres du Patate Club, les rencontres mensuelles peuvent reprendre. Hein, donc pendant les beaux jours, on a fait des pique-niques, mais on peut se revoir une fois par mois, beaucoup plus hein, pour ceux qui veulent, mais dans des bars et des restos.
Mais
donc il faut qu'on se réorganise sur le Discord, hein, y a toutes les régions. Et donc, sur Paname, on est quand même pas mal actif, mais sentez-vous libre hein, si vous êtes ailleurs, en Alsace, dans le Nord, vers Lyon et ailleurs. Si vous avez envie de vous chauffer pour vous voir, c'est l'occasion. Autre chose, Laurent?
Non, peut-être que tu voulais parler du PPF ou pas?
Bientôt.
Très bien.
Bientôt. Encore officiel, mais dans 2 semaines, on pourra sûrement vous en parler. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le PPF, mais vous saurez bientôt. Vous serez tous invités. Ça va être bien cool. Par contre, j'ai une autre news dont j'ai déjà parlé dans le précédent épisode. Donc, c'est une bonne nouvelle et j'ai un petit peu plus d'infos. C'est noter la date du 8 décembre. Le 8 décembre, on va organiser un épisode de clôture de la saison 3 de Sens Créatif au Social Bar à Paris. On va organiser de nouveau un épisode live et en public. C'est l'occasion de tous se retrouver. Donc, je ne connais pas encore la thématique, mais voilà, il y aura aussi un petit concert après, normalement. Il y a notre amie Mathilde Guégan-Loun avec un petit feat de Laurent qui participera. Normalement, il y aura Adrien Guy, dont vous avez déjà... c'est lui qui fait la musique du podcast, le générique du Patate Club, le générique du podcast, les habillages sonores, les rebises de la Brabanson et tout le tintouin. Normalement, elle viendra faire un petit set. Comme ça, vous aurez l'occasion de rencontrer l'homme derrière la musique du podcast. C'est un bidouilleur, il fait vraiment des choses super rigolotes. Ouais. Et je suis en discussion avec une troisième personne, je vous en dirai plus. Mais surtout, ce qui vous concerne, c'est que hormis le fait de tous se retrouver pour ça à Paris, c'est que le collectif Patate aura l'occasion également de s'exposer. Et c'est Mathilde Guégan, de nouveau Mathilde, qui s'en occupe. Et donc, je vous encourage tous à aller sur le topic du collectif Patate sur le Discord pour en savoir plus. C'est une exposition qui est réservée aux membres du collectif Patate. Donc, si ce n'est pas encore fait, on vous encourage à vous inscrire. Et si vous ne savez pas de quoi on parle, écoutez le précédent épisode du Patate Club Podcast qui est sorti la semaine dernière. Une dizaine de places pour participer. Ce sera aussi fait conjointement avec le projet de mur de street art à Paris, qui est aussi piloté par Mathilde. Donc, si vous avez toujours voulu peindre...
Faire de la fresque.
Faire de la fresque dans le centre de Paris, c'est l'occasion. Mathilde vous donnera toutes les infos sur le Discord. Elle m'a donné un super document avec plein de détails, mais vu qu'il y en a plein, je vais pas toutes vous les lire là, mais le mur, ce serait en mi-décembre 2021 aussi, et peut-être que vous pouvez préparer un visuel et pour l'expo qui ce serait le même avec les mêmes couleurs pour le mur. Voilà, donc ça, c'est plutôt des infos cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Installation de l'exposition le 15 novembre, le 8 décembre, le live de Sens Créatif. Et ça irait du 15 novembre au 20 décembre, a priori, si je dis pas de bêtises. Je termine en disant... pour participer, ceux qui sont hyper motivés peuvent s'inscrire par mail, écrire à Mathilde, mathildeguegan@amesen.com ou sur Discord. Je vous mettrai aussi les infos dans les notes de cet épisode. Mathilde transférera au Social Bar les infos et on fera un petit vernissage de Noël. Et voilà, plus d'infos. Je vous invite à aller voir par vous-même. Donc, je trouve ça, c'est hyper chouette de qu'il y ait une première exposition collective.
Ah oui, ça va finir l'année en beauté. Hein. C'est top.
Voilà, exactement. Voilà, et un gros merci et un gros bisou à Mathilde qui s'occupe de tout ça. Ça rend les choses encore plus concrètes, justement, aussi pour le collectif, pour le Patate Club. Donner des opportunités à chacun de s'investir, de montrer son boulot, d'être vu, etc.
Ouais, big up Mathilde, cool meuf.
Voilà. je crois qu'on arrive à la fin de cet échange.
Oui, voilà, c'est fait. Mais on a bien papoté, hein. on a fait plus d'une heure et demie et vraiment un grand merci Lucille
ouais.
Voilà pour toutes les informations que tu as apportées et puis c'était vraiment trop cool.
J'ai l'impression d'avoir fait un épisode bis du live, tu sais, t'as pas pu être là Lucille, mais au final on a abordé plein de sujets que t'aurais pu aborder en public le jour J, donc c'est hyper chouette pour
les membres. J'ai hâte de l'écouter, ce live.
Dans deux semaines, il sort. Un petit teasing, Laurent. Qu'est-ce que tu peux dire sur cet épisode-là? Qu'est-ce que t'en as
qu'est-ce que c'est ? Sur le live ?
Ouais.
Bah déjà, bah, je pense que le lieu était, bah, pour moi le lieu était assez mythique parce que c'est alors je fréquentais pas ce lieu-là parce que je fréquentais Ars Factory quand il était dans le 18e, mais ça m'a rappelé ça m'a rappelé mes débuts de quand j'étais fraîchement diplômé et avoir cette envie de travailler avec des gens à Paris, tu vois, c'est ça m'a refait une espèce de Madeleine de Proust comme ça. Mais déjà d'une part le lieu est magique. Un grand merci à Laurent Zorzin d'ailleurs d'avoir permis d'organiser ce live dans sa galerie. Je pense qu'on a eu en fait un excellent échange entre trois personnes qui ont vraiment de belles valeurs. Chacune dans leur domaine d'expression différent, et en fait ce qui est vraiment superbe c'est que on a vraiment commencé par quelque chose d'assez d'un angle assez professionnel et à la mi-parcours c'est parti sur du domestique, et je pense que les hommes dans le public ont eu les méninges quand ils tournaient à 100 à l'heure, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'informations très intéressantes, vraiment des paroles de femmes, et je pense que live va être très fort et va vraiment vous marquer. Enfin, on espère que vous allez beaucoup réagir sur cet épisode-là, sur le Discord, ça serait vraiment, vraiment super que ça entraîne de beaux débats, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui ont des choses à dire aussi.
Cool. Top. Eh ben, merci. Alors, encore un grand, grand merci, Lucille, pour ton temps. Je suis hyper content qu'on a pu échanger aujourd'hui avec toi.
Ben, merci à toi. Désolée d'avoir faux et faux bon la dernière fois.
Ça valait le coup.
Ah ben, c'est famille. C'est la vie, en fait, la vie avec un grand V. Hein. Là où la vie est du bordel, c'est tout. Hein.
On trouve toujours une solution.
C'est ça. Cool. Eh ben, merci, Lucille. Merci, Laurent.
Grand merci, Lucille.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.
Bye bye.
Bisous. Ciao. Patate.